Bonsoir les amis, on est, comment dire, on est très heureux, on est très fiers. Vous vous rendez compte, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va jouer aux jeux vidéo au Louvre. C'est un moment complètement fou, tellement fou que Twitch est en PLS ce soir. Hein, je vois que Twitch a des problèmes, un gros bug au niveau mondial. Il y a des chaînes qui apparaissent, d'autres qui n'apparaissent pas dans vos chaînes favorites. Parfois, elles ont toutes disparu, parfois, il n'y a que nous. Voilà, c'est formidable, merci de me tenir au courant. Mais je pense que c'est sans doute l'effet, la conséquence de ce stream historique. Je voudrais remercier le Louvre d'abord et d'ailleurs parce que c'est eux qui ont eu l'idée de ce stream il y a quelques semaines, qui nous ont contactés avec toute l'équipe, avec Joe notamment, pour nous dire on a une très belle exposition qui arrive, hein, qui est Mamelouk 1250-1517, qui est consacrée à une civilisation fascinante qui a régné sur une partie du Moyen-Orient du XIIIe au XVIe siècle. On va vous raconter tout ça ce soir. Et il se trouve que dans un célèbre jeu que vous connaissez, qui est Edge of Empire, et notamment dans les volets 2 et 4, eh bien, il y a des célèbres batailles qui mettent en scène ces fameux Mamelouks. Et là, le Louvre a eu cette idée de se dire, mais pourquoi on ne ferait pas un live où on mélangerait tout ça ? L'histoire, l'art, la culture, le jeu vidéo et ce live qui, je crois, est un peu une première où on mélange tout ça dans ce lieu mythique qui est le Louvre, qui est le musée le plus visité au monde. Eh bien, on le fait et c'est ce soir. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous êtes là. Le chat, d'abord, tenez-moi au courant de cette panne mondiale de Twitch qui est étonnante, mais qui vous empêche pas d'être très, très nombreux. Incroyable, Sam, c'est insane. Il est fort. Samu dans son canapé au Louvre. Exactement, on est là. Alors, je vais vous faire un petit menu, un petit sommaire. Vous allez voir, c'est pas que une partie de jeux vidéo ce soir, c'est bien plus que ça. Cette exposition dont je vous parlais, on va la visiter, bien sûr. On va l'explorer, pas toute, parce qu'elle est trop belle, trop grande, il faudra revenir, il faudra venir au Louvre, je compte sur vous pour la voir, cette exposition. Et donc, on sera avec deux commissaires de l'exposition, c'est celles qui ont pensé, qui ont préparé, qui ont travaillé sur cette exposition pendant des années. On sera avec Karine Juvin, qui est la commissaire scientifique de l'exposition, qui m'a offert une visite privée il y a quelques jours de cette expo. Et cette expo, elle m'accompagne depuis parce qu'elle est très, très belle. Je vous parlerai notamment de vases assez incroyables avec des vases en verre. J'en parle très mal, mais avec, comment dire, de la lumière, de l'or capturé à l'intérieur du vase. C'est très, très beau. Souraya Noujaim, qui est la directrice du département des arts de l'islam et commissaire général de cette exposition. Donc ça, c'est pour le côté exposition. Donc on va la visiter. On va aussi en parler beaucoup de cette expo. Frédéric Cramp, de chez Forgotten Empires, qui est un dev, comme on dit, studio de développement qui travaille avec World's Edge Studio sur Edge of Empire. Donc on va pouvoir parler des correspondances entre le jeu vidéo et l'histoire. Est-ce que ces célèbres batailles qu'on trouve dans Edge of Empire 2 et 4 et la réalité historique, est-ce que les correspondances sont fortes ? Est-ce qu'elles sont réelles ? Est-ce que le jeu vidéo respecte l'histoire ? Comment les devs travaillent ? On en parlera avec Frédéric. Et puis ça n'est pas tout, puisque j'ai un invité qui maîtrise Edge of Empire comme personne et qui, dans une autre vie, a été guide d'ailleurs dans des musées. C'est l'ami AlphaCast. Alpha, tu peux me rejoindre ? C'est incroyable. Alors, Alpha qui va prendre un micro et qui va nous expliquer que le Louvre, il le connaît très bien. Là, comment ça va, Sébastien ? T'as vu comment on est bien, là ?
Bah, mais, salut Samuel, et merci. Merci de m'inviter.
On t'aurait dit qu'un jour, on aurait été au Louvre.
Voilà. J'avoue. Je m'y attendais pas.
Le Louvre, tu sais, le Louvre, le soir fermé au public quand il n'y a plus personne.
Ouais, c'est assez magique. Hein,
c'est fou.
De se balader là quand il n'y a personne.
Et toi, tu le connais, le Louvre, parce que dans une autre vie, tu as été guide.
C'est ça.
Parce que tu as fait des études pour être guide dans les musées, c'est ça, hein ?
Ben, c'est ça, j'ai fait plusieurs fois la visite avec un groupe, etc. Ici même. Et du coup, ça fait quelque chose. C'était il y a plus de 10 ans,
c'est
donc
fou,
c'est il y a quelques vies. Mais ça me fait quelque chose de revenir ici. Et en plus, pour découvrir, là, pour le coup, un département que je connais assez peu. Donc, je vais découvrir plein de choses. J'ai très, très hâte. Donc, très, très heureux d'être là. Et puis, évidemment, aussi pour te coacher sur Age of Empires.
Ah ouais, j'aurai besoin de toi. Puisque, donc, je vous l'ai dit, on va se promener ensemble avec Sébastien, d'ailleurs, dans l'exposition Mamelouk. Mais on va aussi jouer. Alors, on va jouer à Edge of Empire 2 avec une bataille. Alors, c'est le nom de la bataille, c'est Dain Djalou.
C'est ça.
Alors, bataille dans Edge of Empire 2 qui n'existait pas il y a encore quelques jours et qui est disponible. C'est quoi, on dit, c'est un update,
c'est un contenu additionnel
depuis hier, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, on va jouer à cette campagne, ben, nous, pour la première fois. Je vais y jouer, tu vas m'accompagner. Ah, ben, d'ailleurs, ben, on la voit, d'ailleurs. Là,
là c'est ouais, le menu. Ça, là. C'est le 2. C'est le menu, voilà. Tranquillement. On va
si
être sur
on
le 2
va
et
dans
sur le 4.
Un joueur, partie personnalisée, ouais. Et qu'on choisit, eh bien, on a cette célèbre bataille. Et après, on jouera, ou plutôt toi, à Edge of Empires 4.
C'est ça. Ouais, on va voir la différence entre les deux batailles, parce que la même bataille est disponible dans les deux jeux.
Oui.
Donc, on va voir les différences. Et puis, on va aussi discuter avec... notre ami développeur, oui. Pour voir comment ils ont intégré ça dans le jeu.
Et donc, avec Catherine Juvin aussi, la commissaire, tu sais avec qui on va faire l'exposition. Pourquoi ? Parce que son regard aussi sur le jeu vidéo nous intéresse. C'est-à-dire que le jeu vidéo, il respecte ou pas strictement la réalité historique.
Oui, oui, oui.
Et on voit que sur certains détails, c'est oui, sur d'autres, un peu moins.
un peu moins, oui. Voilà. Sur d'autres, beaucoup moins.
Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est qu'il y a plein de surprises ce soir. Il y a aussi un dîner.
Oui. Ah oui, c'est vrai. Moi, ouais. C'est pour ça que je suis venu à la base, hein, bien sûr.
Alpha me disait, moi, je suis venu pour
bien
le
sûr,
dîner.
Bien sûr, bien sûr.
À la fin de ce stream, dans 2h30, 2h45, on a un petit dîner, rapide avec un chef. Le chef étoilé Vivien Durand, qui sera avec nous et qui a pensé une recette inspirée des traditions culinaires de l'époque.
Ouais.
Voilà, c'est pas mal.
Ouais, j'ai très hâte de découvrir ça. Hein.
Alpha m'a dit qu'il était venu pour ça. Edge of Empires, c'est un jeu important pour toi ou pas?
C'est un jeu très important pour moi, ouais, parce que c'est pratiquement un des premiers jeux auxquels j'ai beaucoup joué quand j'étais gosse. Mmh. C'était en 1998-99 le 2 notamment est sorti. Mmh. Et moi, j'ai commencé avec le 2 directement. Donc, moi, c'est un des premiers jeux vraiment auxquels j'ai beaucoup joué. Mon frère et moi, on y jouait beaucoup et on se partageait le jeu entre nos ordinateurs. Je lui volais le CD, je le planquais pour jouer parce qu'il fallait le CD pour pouvoir jouer.
Attends, mais quelqu'un m'a raconté une anecdote tout à l'heure en préparant le live là, des gens du studio, qu'à l'époque... Toi, tu l'as peut-être connu, le CD pour le jeu, on le trouvait notamment dans des paquets de céréales pour enfants. Tu ne l'as pas connu, ça ?
Le 1, je crois. Ah, oui, 1. Je crois que le 1, on pouvait le trouver. Peut-être le 2 aussi, mais oui.
Tu
as
connu ça ?
Non, ouais, j'ai connu ça, ouais, j'ai connu ça. C'est j'ai fou, connu ça. Ça. Ouais, non, ça date, ça date. Mais...
Moi, quand c'est sorti, je ne mangeais plus de céréales à l'époque, je travaillais déjà. Et voilà, c'est...
Non, mais tu as découvert les jeux vidéo plus tard.
Plus tard.
Ouais. C'est pas grave, tu as rattrapé le retard.
Ah, on me dit que, alors, tu sais, il y a une histoire d'un bug Twitch mondial.
Oui.
Et on est en train de me dire que c'est revenu, que les chaînes sont
magnifiques.
Revenues. Joe, est-ce qu'on est quand même nombreux ensemble ce soir ou pas ?
Alors normalement, les gens m'entendent aussi. Je suis très fort, mais ça va être... On est pratiquement 6500 pour le moment.
C'est trop nombreux, voilà. Et c'est réparé. Voilà, on commence ce live par une bonne nouvelle, Twitch.
Je passe un coup de fil.
Et réparé. C'est toi ?
Oui, c'est moi.
C'est toi ?
Un coup de fil.
Bravo, bravo. Alors, ben, je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Voilà, on va... recevoir Souraya qui va nous rejoindre, Souraya Noujaïm, qui est directrice du département des arts de l'islam et commissaire générale de cette exposition Mamelouk 1250-1517. Comment allez-vous ?
Très bien.
Prenez ce micro.
Merci. Bienvenue.
Bienvenue.
On peut le dire.
Bienvenue à vous.
C'est votre premier stream ?
Ah, c'est mon tout à fait premier stream et je crois que, comme vous le disiez à l'instant, c'est une première pour nous aussi au Louvre, en tout cas aux arts de l'islam très clairement. Ouais.
Ah ben, je crois que c'est une grande première, je crois qu'on n'a jamais joué aux jeux vidéo au Louvre, même si on va faire bien plus que ça. Comment l'idée, le désir de l'exposition est venu, dans quelles conditions ?
Alors, c'est une exposition qui a été conçue, on a commencé à y travailler il y a à peu près 3 ans.
Ouais.
On était à la recherche en fait d'un sujet qui mette en valeur les collections du Louvre et puis qui sont parmi les plus riches dans le monde occidental sur l'époque mamelouk justement. Donc voilà, ça s'est monté un petit peu comme ça.
Quand
et
je disais des années de travail, je ne me suis pas trompée.
Trois bonnes années, Karine Juvin vous le confirmera, et l'ensemble de l'équipe et des équipe du Louvre ici, parce qu'on ne travaille pas seul. Hein. On est une équipe de commissaires, on travaille une équipe d'exposition temporaire, avec la communication évidemment, avec les installateurs. Enfin, c'est vraiment beaucoup de travail, mais c'est en même temps très joyeux. On construit une histoire finalement, on raconte une histoire et on construit un scénario un petit peu comme dans un film ou bien quand vous préparez vos émissions également. On construit un récit et on vous emmène, finalement, on emmène le visiteur, en l'occurrence, dans une espèce de grande épopée historique, à travers ces deux, un peu plus de 2 siècles et demi, qui sont finalement très peu connus Et
oui, c'est vrai.
Voilà. Oui.
Alors, j'espère que vous ne croyez pas que je suis impoli. Vous voyez que je regarde beaucoup mon téléphone. Et en fait, sur mon téléphone, il y a le chat. Oui. Tous ceux qui nous regardent, qui échangent, ils commencent à commenter notre stream. D'abord, qui remercie le Louvre d'avoir cette idée. Parce que cette idée, elle n'est pas venue de nous, elle est venue de vous. Donc merci au Louvre, parce que c'est vous qui avez eu l'idée de ce stream. Et il y a Soka, par exemple, qui dit « Je ne connais pas cette période, j'ai trop hâte de la découvrir. » Et vous le disiez à l'instant, cette période de l'histoire, elle est pas très connue.
Alors, il y a deux choses. Effectivement, il faut remercier, comme vous le disiez, le Louvre. Ouais. Moi, je suis, et aussi au Louvre, on est absolument convaincus que c'est l'art est également passe par plusieurs médiums, en fait. Que ce soit les expos, que ce soit le jeu, que ce soit toute forme d'apprentissage. C'est aussi un divertissement. Hein. C'est un moyen de comprendre le monde, c'est un moyen de comprendre l'histoire. Et pour répondre à votre interlocuteur, oui, c'est une période qui est assez peu connue, qui était un petit peu, on va dire, coincée entre la période des croisades et l'Empire ottoman, alors que ça a été une période extrêmement riche et extrêmement dense au Proche-Orient, c'est-à-dire globalement une région qui couvre une partie l'Égypte, voilà, les pays du Levant, c'est-à-dire la côte syro-palestinienne, pour arriver jusqu'à l'est de la Turquie, voilà. Et c'est un empire en fait qui a été vraiment un autre empire du milieu, si vous voulez, un empire connecté, réellement connecté avec
à l'Asie,
à l'Europe, à l'Afrique, ce qu'on connaît moins, à la mer Rouge, vraiment qui ont dominé le commerce et qui ont tiré leur richesse finalement et leur stabilité du commerce, notamment des épices.
Et ce que Karine Juvin nous expliquera tout à l'heure aussi, c'est que l'intention de l'exposition, c'est de nous montrer que cette civilisation mamelouk, qui est très connue pour son art de la guerre, son art militaire, en fait, elle était incroyable aussi sur le plan artistique. Ouais. Et c'est ça que montre l'exposition, hein, c'est ça?
Oui, ce sont des guerriers, ils sont connus pour ça, mais ce sont aussi de grands bâtisseurs, hein, les villes du Caire notamment, la ville de Damas, la ville de Alep, et un certain nombre de ces très belles villes du Proche-Orient sont encore marquées par cette architecture mamelouk très impressionnante, très vivante, et vous le disiez, effectivement, un art d'une richesse incroyable. Alors vous avez derrière vous une des œuvres absolument phares et iconiques de cette exposition, le bassin dit baptistère de Saint-Louis.
Le baptistère de Saint-Louis. Voilà. Alors, c'est étonnant parce que Saint-Louis, ça nous emmène
mais voilà.
Et c'est sous d'autres latitudes.
Sous d'autres latitudes. Oui. C'est un nom en fait, qui est erroné, hein, que c'est vraiment historiquement, c'est une tradition que ce bassin porte depuis le 18e siècle. Mais il a une trajectoire, je dirais, qui résume vraiment cette exposition. Il est fabriqué probablement en Syrie, dans la deuxième moitié du 14e siècle. Il arrive en Europe, en tout cas, il est cité dans les inventaires de Vincennes au début du 15e siècle.
Il est vendu, alors, il est pris, on
ne sait pas à qui, ouais. Pour qui il avait été fait, on ne sait pas, on ne connaît pas sa trajectoire directe, mais enfin il se retrouve en Europe, donc en France au 15e siècle, et il sert de cuve baptismale finalement
pour le sacre des rois
à Louis XIII, ouais. À Louis XIII notamment. Il reçoit ce nom erroné au XVIIIe siècle, et ensuite au XIXe, il continue à servir de cuve baptismale à des enfants de France. Donc c'est vraiment une œuvre, là encore, de connexion dans sa fabrication, sa trajectoire, et une richesse absolument incroyable. Vous avez derrière vous ce panorama qui reprend des agrandissements, vous voyez, des guerriers, des émirs, des chasseurs, voilà, une densité de personnages et de compositions.
Alors dis-moi Sébastien.
Et si on peut peut-être, pour les personnes dans le chat qui ne connaissent pas les mamelouks, est-ce qu'on peut peut-être redéfinir,
ah oui, bien sûr.
Et comment se définit un mamelouk? Qu'est-ce qu'un mamelouk?
J'aurais dû commencer par ça.
Eh ben,
merci de poser la question.
Ce sont vos talents de conférencier. Voilà.
Alors,
vos talents de conférencier il y a quelques années. Alors effectivement, les mamelouks, c'est une caste militaire. Mamelouk, le le nom est tiré en fait de la racine arabe mulk, en fait, donc possession. Et ce sont des gens, voilà, qui appartiennent, qui sont à quelqu'un. Donc c'est une tradition qui est assez ancienne dans le monde arabo-islamique. On la voit apparaître dès le 9e siècle dans la cour abbasside de Bagdad. Les califes commencent à s'entourer de gardes, on va dire, prétoriennes pour assurer leur sécurité. Ils sont en général d'origine turcomane. Et c'est une tradition qui va se perpétuer. En ce qui concerne les mamelouks, c'est sans doute la première fois qu'ils constituent un État et que une fois affranchis, si vous voulez, ils prennent le pouvoir. Alors ils viennent d'où ? Ils viennent d'horizons très, je dirais, très, très, très variés, d'Asie centrale, de ce qui correspond aujourd'hui à le sud de la Russie, la Turquie, le Caucase, et ils s'installent dans ces deux grandes cités, le Caire d'abord, et ils étendent leur pouvoir. Oui,
est-ce que pour simplifier, résumer, corrigez-moi, hein, on peut dire que les Mamelouks à l'origine sont des esclaves, donc même des enfants qu'on allait enlever dans les zones que vous venez d'évoquer, qu'on ramenaient à des fins de formation militaire, voilà. Et qu'une fois qu'ils atteignaient un certain degré dans l'art du combat, étaient affranchis.
Exactement. Et dans l'exposition, je vous invite à admirer, on accueille justement le visiteur sur une espèce de théâtre d'ombre, justement, qui raconte un petit peu, qui met en scène cette histoire des Mamelouks. Vous le disiez, ils sont élevés dans l'art de la guerre, et ils sont évidemment élevés également dans la religion musulmane.
Et je te propose qu'on rejoigne Catherine Juvin.
Oui.
Justement, je vous invite effectivement à continuer la visite avec Karine, qui va vous emmener dans sa nuit d'hiver fantastique, et qui va vous faire rêver et qui va vous faire dépasser justement la question de cette caste militaire.
Je vous lis quelques commentaires de viewers qui sont avec nous. J'ai étudié cette période à l'université dans le cadre de mon master d'histoire. C'est une période absolument passionnante. Alors certains sont férus d'histoire dans le chat. Hein. À Moufla, quand je dis pas très connu, me dit on parle quand même de la fin du Moyen-Âge oriental. Donc évidemment, il y a des gens qui connaissent un petit peu.
Je dirais que c'est une renaissance en fait, en quelque sorte.
Ah oui.
C'est vraiment, ça marque une rupture et une entrée dans la modernité.
Ouais. Il y a votre micro, pardon.
Ah oui, le micro.
Pardon. Et il y a même le Kitresse qui en souriant nous dit est-ce que un jour il y aura une partie du Louvre consacrée aux jeux vidéo, puisque le jeu vidéo était aussi une forme d'art, et peut-être qu'un jour. Pas aujourd'hui encore.
Oui.
Peut-être qu'un jour, il y aura une aile.
Mais peut-être. Alors, je ne sais pas si ça sera consacré aux jeux vidéo, mais en tout cas, c'est certainement un médium que nous utilisons pour promouvoir et auquel moi personnellement je trouve que le gaming c'est formidable.
Ça intéresse. Enfin, c'est une porte d'entrée.
Nos viewers sont très exigeants. Ils ont remarqué que pour eux le livre était à l'envers et donc ça râle. Voilà, c'est un très beau livre d'ailleurs qui est le livre de l'exposition. Alors,
c'est moi qui le lisais tout à l'heure.
Alors c'est un très beau livre dont la direction scientifique donc est assurée par Karine qui va vous emmener tout à l'heure dans les salles et qui a rassemblé vraiment une synthèse absolument formidable de l'ensemble de la connaissance de cette période qui est extrêmement riche, avec un nombre d'auteurs vraiment très... Et ça se lit très facilement. Pour ça, je vous le dis à tous là qui vous nous regardez, il ne faut pas être effrayé, ça se lit comme un magazine, en fait, et c'est vraiment pour moi, en tout cas, l'intérêt de cette publication qui... Pardon. L'intérêt de cette publication qui allie un savoir académique, scientifique, historique vraiment très aigu et en même temps une facilité de lecture, de très belles images. Et voilà, effectivement, peut-être...
Je signale qu'il y a Joe, le réalisateur de l'émission et producteur, qui vient d'épingler un lien qui vous paraît peut-être mystérieux et qui est un lien très important puisque c'est le lien qui permet à ceux qui ont déjà le jeu, Age of Empires 2, donc, de télécharger ce nouvel épisode qui est celui de
c'est une mission, c'est
oui,
c'est
la mission,
campagne
voilà.
Personnalisée,
exactement.
Qui a été rajoutée.
La fameuse bataille,
il y en a deux,
voilà.
Il y a Ranjalou,
exactement.
La bataille de Saint-Jean, d'Acre, puisque, merci Micro, ils ont, les Mamelouks ont véritablement bouleversé en fait, l'histoire du Proche-Orient, finalement, et peut-être l'histoire du monde, parce qu'ils ont arrêté les Mongols d'une part, et ils ont mis fin de façon définitive aux États, aux royaumes latins d'Orient.
Merci encore, voilà. Souraya. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous de venir nous rendre
visite. C'est un plaisir.
Merci beaucoup. Voilà.
On va donc rejoindre Karine Juvin avec Seb. Et effectivement, donc ceux qui jouent déjà à Age of Empire, allez voir le lien que Joe a épinglé, parce qu'en fait, ce lien permet de découvrir cette nouvelle mission qui n'est disponible que depuis hier, qui a été développée en un temps que je trouvais... on en parlera tout à l'heure avec notre invité, Frédéric, le développeur dont je vous parlais. Et en fait, parce qu'en fait, c'était cette nouvelle mission... Elle naît de ce partenariat avec le Louvre et la mission devait absolument être prête pour l'exposition.
Oui, voilà. Avec un doublage en français et un doublage en anglais aussi qui a été réalisé.
Ah, merci. Oh, non, je suis chargé.
Oui, il y a de quoi faire.
Alors que j'ai la tablette, j'ai le chat et je crois que c'est par ici, hein, je ne me trompe pas. Viens, on va rejoindre. Donc là, on est dans cette exposition.
Ah, c'est beau.
Mamelouk, qui n'est que pour nous. Voilà. Et Karine Juvin. Qui m'a fait le joli cadeau de me faire découvrir cette exposition dans une visite privée il y a quelques jours, eh bien, nous attend. Elle est là. Ça va, Karine? J'ai un micro pour vous. Regardez comme je suis chargée. Voici. Merci. Bonsoir, Karine.
Bonsoir.
Alors, vous connaissez AlphaCa, Sébastien?
S'est rencontrés juste avant le début.
Donc, Karine Juvin, c'est... Karine, je vais vous faire rougir, mais... Si je dis, vous êtes celle qui a pensé cette exposition, je peux le dire comme ça quand même.
Un petit peu, en tout cas, disons que je suis à l'origine un petit peu de l'idée du projet, et puis je l'ai développé au cours des trois dernières années. Donc ça m'a accompagnée pendant 3 ans.
C'est 3 ans de votre
vie, un petit peu, on peut le dire.
Et ça va se poursuivre un petit peu, parce que je crois que l'exposition, on n'en a pas parlé encore, mais elle va voyager.
Hein, oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est une exposition qui a été conçue, développée en partenariat avec le Louvre à Abu Dhabi, avec qui, évidemment, le Louvre est en collaboration étroite, permanente. Et donc, l'exposition va aller à Abu Dhabi. Elle ouvrira à Abu Dhabi le 17 septembre prochain jusqu'à la fin du mois de janvier 2026.
D'accord.
Et puisqu'on parle de pays, il faut aussi expliquer que cette exposition, elle n'aurait pas été possible sans les prêts de musées étrangers. Même si une partie importante des œuvres que l'on peut admirer ici, elles viennent du Louvre.
Oui. Effectivement, on a la chance au Louvre d'avoir une très belle collection Mamelouk, très variée. Donc, on a environ 80 pièces ici sur 258. Donc, quand même une proportion importante. Ce qui fait que cette exposition a tout son sens au musée du Louvre. Mais bien sûr, on a évidemment sollicité nos collègues, les autres institutions qui possèdent des collections. Il y en a beaucoup en Europe, notamment aux États-Unis et au Moyen-Orient.
Et cette collecte-là, c'est une partie du travail. Hein.
Oui, c'est une partie du travail.
Les œuvres ne voyagent pas comme ça. Hein.
Non, absolument. Alors évidemment, il y a une connaissance des collections puisque je m'occupe des Mamelouks depuis quelques années. Mais effectivement, c'est la première partie du travail, c'est chercher les œuvres, les rassembler et puis négocier aussi avec les institutions.
Et ce qui est fou, Sébastien, c'est que Karine m'expliquait quand on s'est rencontrés il y a quelques jours, c'est que parfois c'était un peu Karine qui apprenait à tel musée qu'ils avaient une pièce assez incroyable liée à l'histoire mamelouk qui n'était pas exposée, qui était dans les réserves. Et c'est vous qui dites, là, vous avez un truc incroyable chez vous, quoi.
Oui, alors, parfois, ils le savent un petit peu, mais ils n'ont pas forcément la possibilité de l'exposer, ou bien, effectivement, au sein de toute leur collection, ils n'ont pas forcément idée que pour les mamelouks, c'est important. Et effectivement, on a la chance de présenter ici quelques objets pour la première fois, y compris des collections françaises, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres collections françaises qui peuvent être très riches, notamment des trésors d'église. On a un très beau vase en verre émaillé de la basilique Sainte-Anne d'Apt, qui n'a jamais été exposée et qui n'est pas visible habituellement dans la basilique.
D'ailleurs, dans cette exposition, il y a plusieurs objets qui n'ont jamais été présenté
au public. Oui, bon, effectivement, et c'est la première exposition mamelouk en Europe. Je ne sais pas si on a eu l'occasion de le souligner. Mais c'est la première exposition sur les mamelouks organisée en Europe. Donc, évidemment, beaucoup d'objets sont présentés pour la première fois, notamment beaucoup de manuscrits qui n'ont pas beaucoup l'occasion de sortir des bibliothèques qui ont prêté très généreusement pour l'exposition, et notamment la Bibliothèque nationale de France, qui est partenaire de l'exposition et qu'on va essayer de vous montrer, infiniment.
Là, je vous parle beaucoup, je suis très bavard, parce que moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette exposition, et au travers de ce que vous avez pu me montrer. Peut-être vous voulez peut-être commencer à nous montrer des choses.
On
ne va pas tout voir.
On voit la dernière partie de l'exposition, qui en compte 5, mais qui est une partie très importante. On laisse derrière nous la quatrième partie sur un Orient connecté, justement, qui regarde un peu les relations des Mamelouks avec les régions environnantes, et qui parle d'interactions, justement, culturelles et artistiques, et qui ont contribué à la création de cet art mamelouk. Et c'est comme ça qu'on termine l'exposition avec cette cinquième partie sur un art mamelouk. Qu'est-ce qu'un art mamelouk, finalement,
et qu'on trouve à l'époque déjà
les grandes réalisations, les grandes tendances de cette époque. Et donc, on commence ici avec deux éléments importants de l'art mamelouk, qui sont d'une part la calligraphie, la tradition calligraphique, l'importance de l'écriture qui est utilisée abondamment ornement. On a quelques exemples de traités sur la calligraphie, parce qu'on composait beaucoup de traités, on aimait bien ça à l'époque.
C'est une civilisation de l'écrit.
De l'écrit, absolument, et on conserve une masse énorme de documents écrits, et notamment de très beaux manuscrits. Et là, ici, on a une très belle double page d'un Coran monumental de la fin du XIVe siècle, seconde moitié du XIVe siècle, qui nous permet de montrer un très beau spécimen d'écriture, en l'occurrence un style qui s'appelle Mourakak et qui est spécifique pour la copie du Coran, donc puisqu'on est dans les dernières pages d'un Coran monumental. Et donc là, voilà, on a une très belle écriture et un très très beau décor enluminé
On me pose la question dans le chat, quelle écriture ? C'est de l'arabe littéraire ?
C'est de l'arabe, bien sûr. Le Coran a été révélé et mis par écrit en langue arabe. Et à cette époque-là, en principe, on ne le traduit pas.
Parce que les Mamelouks ne sont pas originaires de régions musulmanes, mais quand ils sont enlevés à leur famille, ils sont convertis à l'islam. Je me trompe pas.
Oui, ils sont convertis, éduqués à l'islam, et donc ils deviennent de fervents musulmans. Ils vont élever des monuments religieux, de très nombreuses mosquées, madrassas, donc des lieux d'enseignement. Voilà, des établissements de mystiques aussi, parce qu'il y a une tendance mystique qui se développe à cette époque beaucoup. Et donc, faire réaliser nombre de manuscrits du Coran, de très beaux manuscrits enluminés, des manuscrits royaux.
Moi, j'ai une question. Donc, les Mamelouks, on est sur une civilisation qu'on pourrait qualifié d'origine militaire, guerrière, avec donc des enfants qui sont éduqués de manière martiale. D'où vient cet épanouissement artistique qu'on retrouve, qui émane de cette civilisation ?
Comment on l'explique ? Il ne faut pas non plus confondre les Mamelouks en tant que groupe élite militaire qui gouverne le pays et le sultanat Mamelouk, c'est-à-dire l'ensemble de ces territoires et de ces sociétés, finalement. Oui. Au-delà de l'élite militaire, il y a toute une société dans toute sa diversité et dans ses cultures, qui est civile, et avec sa culture littéraire, artistique, qui est évidemment mise au service du pouvoir, donc du pouvoir Mamelouk. Et donc, il y a un petit peu cette rencontre, justement, entre un art royal, somptuaire, voulu par les Mamelouks, avec, justement, on retrouve dans cette frénésie, un petit peu, de construction artistique, derrière, il y a un petit peu la rivalité aussi des élites Mamelouks, des grands émirs qui rivalisent un petit peu dans la construction de monuments qui vont être somptueusement décorés.
Et notamment pour tenter de devenir sultan, puisque le sultan était choisi
Parmi les grands émirs, en principe, parce qu'il y a évidemment des sultans qui ont essayé et réussi à installer leurs enfants sur le trône.
Voilà, comme il arrive souvent.
Et
vous voulez qu'on avance un petit peu, Karine?
Oui. Bien, voilà. Donc, de l'autre côté de cet espace, on a tout un mur, ce que j'ai appelé le mur graphique, parce que, eh bien, c'est une autre composante importante de cette période mamelouk. C'est, je trouve, cette force de l'ornement, cette force graphique. Pour moi, les mamelouks, c'était vraiment des grands graphistes, des grands designers qui ont élaboré des dessins, des ornements, notamment des compositions géométriques qu'ils ont portées à une complexité nouvelle. Et c'est vrai aussi pour les ornements floraux. Là, on a deux très belles grandes reliures aussi pour des manuscrits monumentaux. Hein. Ce sont des reliures en cuir avec des décors, vous voyez, estampés et puis dorés. Et là, voilà, on a un très, très beau décor floral stylisé. Et il y a beaucoup de stylisation, en fait. On ne cherche pas forcément à être, et même pas du tout à être... mimétique, c'est-à-dire oui. À imiter la nature vraiment comme on pourrait le voir en Europe, voilà, au 15e, déjà 16e siècle. On est plutôt dans une stylisation en fait des motifs végétaux et même des personnages d'ailleurs. Et donc on aboutit à quelque chose de très fort visuellement, de très rythmé, de très équilibré et de très dynamique aussi dans les compositions. Et donc là, voilà, on le voit sur le mur où on a eh bien, différents exemples de ce type là, de réalisation. Ça, c'est un heurtoir de porte. Qui est incroyable, qui vient d'une madrassa du Caire.
C'est fou, hein.
Et voilà, et donc là, on est dans voilà, des sortes de lignes ondulantes avec des tiges qui passent par-dessus, par-dessous les unes les autres. Et en fait, si on regarde bien le dessin du détail, eh bien, on a une ligne continue. En fait, c'est comme un mouvement perpétuel, finalement. Ouais. Les lignes naissent les unes des autres, s'entrecroisent, et puis le mouvement continue. Il y a un petit peu.
Je sais pas si on peut se rapprocher, on le voit vraiment quand on se rapproche, mais il y a un détail incroyable, hein, vraiment. Ouais.
C'est voilà, là on voit vraiment la force aussi plastique et la force dynamique encore une fois de ces lignes de décor.
C'est une société très très ouverte sur l'art et c'est une société aussi qui est très très ouverte sur les minorités. Il y a des minorités religieuses chrétiennes et juives.
Oui.
Et pour l'époque, on peut dire qu'il y a une forme de tolérance assez forte, non?
Il y a une forme de tolérance, alors qui ne va pas sans tension ici et là. Hein. Il faut pas être trop idéaliste, oui. Bien sûr, mais effectivement, il y a des communautés chrétiennes qui sont importantes, que ce soit en Égypte ou dans la région syrienne, des communautés juives aussi, et qui ont des statuts, on pourrait dire, protégés, entre guillemets, selon les conceptions de l'islam, les gens du livre, donc juifs, chrétiens, zoroastriens en Iran, eh bien, ont un statut protégé et donc peuvent pleinement, librement exercer leur culte. Et bien sûr, et donc ils font... ils font partie de cette société pleinement et peuvent occuper des postes de haut niveau, etc. Et donc participer aussi au mécénat artistique ou à la production artistique. Et il y avait notamment beaucoup de coptes, donc les chrétiens d'Égypte, qui étaient des artisans, en fait, hein, traditionnellement. Donc oui, c'est un art, en fait, évidemment, qui se nourrit des traditions anciennes, locales, et puis qui, je le disais, se nourrissent aussi d'influences extérieures qui sont incorporées, réinterprétées. Donc c'est le cas pour eh bien, justement toutes ces influences asiatiques venues de l'Iran, du monde mongol, puisqu'il y avait les Mongols à l'est qui sont arrivés jusqu'en Irak avec les Mamelouks ont combattu et ont battu à Ain Jalut, on va le voir tout à l'heure.
D'ailleurs, on aura besoin de votre regard
voilà,
après.
Bien sûr.
Vous me direz ce que vous pensez de la représentation de l'histoire par le jeu vidéo.
Absolument.
Plus ou moins fidèle, voilà.
Et donc, de manière continue, les influences venues de l'Est, chinoises, on importait beaucoup de céramique chinoise et les potiers locaux, égyptiens, syriens, s'en sont inspirés. Et
dans cette exposition, on le voit, effectivement.
Donc, on le voit sur un certain nombre de,
cette influence voilà,
de réalisations. Alors, c'est une période où, justement, il y a des techniques qui existaient déjà juste dans la période précédente, comme le métal à décors incrustés de métaux précieux, les décors de boiseries avec ces motifs. motifs.
Elles sont incroyables.
Incroyables. Donc, ce sont des petits éléments de formes géométriques diverses, hein, qui sont sur cet exemple en ivoire, donc blanc-crème, et qui sont assemblés les uns avec les autres par des baguettes rainurées pour former des compositions géométriques justement très complexes, avec notamment ce qu'on appelle les polygones étoilés, où on a une étoile au centre et puis des petits polygones autour qui viennent rayonner pour former une sorte de motif rayonnant et qui eh bien, s'imbriquent un petit peu les uns dans les autres. Et là, on a l'impression voilà, de motifs qui pourraient se développer à l'infini en dehors du cadre, mais qui sont un peu capturés finalement par le cadre de ces vantaux, de ces portes en fait.
Côté kaléidoscope un peu presque.
Voilà, exactement. Ouais. Il y a aussi ce côté kaléidoscope et le jeu sur la polychromie. On aime beaucoup la polychromie et c'est ce qu'on retrouve sur le vert émaillé
coloré.
Et doré.
Oui, c'est très,
un
très
art coloré.
Très coloré.
Dans le décor architectural aussi, ouais. On aime beaucoup créer des parements, des mosaïques de marbre de différentes couleurs. Oui. Donc il y a un goût pour la couleur, il y a un goût pour la lumière. Alors, qu'on retrouve eh bien, dans ces objets en vert émaillé doré qui est vraiment la technique peut-être la plus emblématique, la plus étonnante de la période mamelouk, parce qu'à cette époque, il n'y avait vraiment que le sultanat mamelouk qui fabriquait ce type d'objet.
Avec cette technique.
On n'en avait pas en Iran, par exemple, à l'Est, on n'en avait pas au Maghreb. Donc c'était vraiment une spécialité, on pourrait dire, de la Syrie et de l'Égypte, et qui était très recherchée ailleurs, puisqu'on a retrouvé, on a exporté des verres émaillés et dorés mamelouk dans toutes les régions, peut-être probablement jusqu'en Chine, en Afrique, au sud de la Russie, et en Europe, où on était très, très friand de ces objets.
On a retrouvé certains de ces vases en Europe.
Seb,
je ne sais pas ce que tu en penses,
on en
mais moi,
avait
je mets
dans
un vrai coup de cœur pour ces vases qui sont incroyables. Avec, donc, est-ce qu'on connaît précisément la technique, c'est-à-dire que cet exemple-là, il est incroyable, ce verre soit transparent et doré à la fois. Comment on faisait en fait? On incorporait des paillettes d'or au verre?
Alors non. En fait, c'est un verre qui est alors légèrement teinté parce qu'il a des impuretés qui lui donnent une teinte soit un petit peu jaunâtre, soit un petit peu verdâtre. Mais c'est un verre incolore, transparent, ouais. Qui est soufflé, hein, donc pour donner la forme. Alors évidemment, il faut une certaine maîtrise pour pouvoir donner des formes très régulières sur des objets qui sont quand même de taille assez importante, hein, pour ces types de lampes de mosquées. Et puis, ensuite, on appliquait un décor qui était doré. Donc en fait, c'est une peinture alors finalement qu'on applique sur l'objet, sur le verre. Et de même, on applique ce qu'on appelle des émaux, hein, colorés, donc qui sont un mélange de verre et de pigments. Et on les repasse un petit peu au feu pour fixer ces émaux et l'or. Et voilà, on obtient un verre qui, effectivement, a un aspect très doré.
C'est presque de la peinture sur vitrail.
Quand il est bien conservé, parce que parfois, on a un peu
perdu. Justement, celui-ci, dans un état de conservation qui est assez étonnant, c'est un objet qui a été restauré. C'est pas possible.
Non. Mais bon, certains, certains ont plus ou moins bien traversé les siècles. Cette lampe est assez remarquable. Elle est plutôt datée des débuts de la période mamelouk, d'ailleurs du début du 14e siècle. Elle est au nom d'un sultan. Et c'est le premier exemple, il me semble, d'utilisation de motifs de chinoiserie. Justement, on a des petites fleurs de lotus là, à la base du col. Et c'est le premier objet en verre émaillé doré qui présente ce type de chinoiserie. Et à côté, on a un autre vase absolument exceptionel.
Les oiseaux.
Le vase aux oiseaux qui a une forme qui rappelle la forme des petits gobelets comme celui qu'on a ici, mais alors avec une taille étonnante qui fait que ça devait pas être quand même très pratique pour boire.
Oui, il faut avoir très soif.
On peut avoir très très soif. Donc on s'interroge de ce fait sur sa fonction. Est-ce que vraiment il était utilisé comme un vase à boire? Pas évident. Est-ce que finalement il pouvait avoir une fonction de lampe? Est-ce que c'était un objet symbolique de présentation? Il a un décor d'oiseau qui est absolument incroyable. Il faut vraiment s'approcher pour voir
les
détails. Alors il y a un phénix ici qui est un animal légendaire, mais il y a aussi des oiseaux tout à fait réels. On a un perroquet ici, un canard en vol, une huppe et même des petits insectes qui se promènent au milieu, des papillons ou des libellules et qui semblent flotter un petit peu à la surface du vase. Voilà.
Heureusement qu'ils sont bien protégés, ces objets, parce que Karim, moi, quand je vois un objet comme ça, j'ai très envie de le ramener à la maison.
Ah oui.
De le mettre dans mon décor de vous voyez.
Mais ils sont bien protégés, effectivement. Et en même temps, pas facile à cacher sous son manteau. Hein.
C'est compliqué à faire voyager, j'imagine, ce genre d'objet.
C'est compliqué, oui et non. Il y a des sociétés de transport spécialisées dans les œuvres d'art.
Fragilité.
Et évidemment, c'est la fragilité. Donc, il y a des caisses très protectrice. Voilà, et on les déplace évidemment avec toutes les plus grandes précautions.
Si on vous montre pas tout aujourd'hui, c'est pour vous ayez envie de venir
en spoil,
parce que
alors,
je pense que par le truchement de la caméra, on se rend compte que l'exposition est magnifique, mais ça ne remplace jamais.
Et non,
l'échange avec l'objet.
Voilà, il faut être devant l'objet. Voilà.
Il faut venir.
Ici, par exemple, on a une coupe qui vient du musée de Rouen, musée Beauvoisine de Rouen, qui est montrée pour la première fois. Il était conservé dans les réserves du musée. Voilà, il n'est pas exposé. Il a été restauré à l'occasion de l'exposition. Et il a conservé lui aussi très, très bien son décor de dorure qui est bien magnifié par l'éclairage.
On me pose plein de questions. On me demande, par exemple, si cette exposition pourrait l'avoir au Louvre-Lens. Et je ne crois pas, hein. Pour l'instant,
elle n'est pas prévue au Louvre-Lens. Il y aura peut-être quelques objets qui vont aller prochainement au Louvre-Lens pour une autre exposition, mais qui ne sera pas consacrée au Mamelouk spécifique.
Quand j'avais posé la question à Karine, une exposition comme ça, on veut la voir voyager à travers le monde entier. Et Karine m'a expliqué, oui, mais les objets, ils sont prêtés, et donc on ne peut pas les garder indéfiniment.
Parce que les musées n'ont pas envie de se séparer trop longtemps de leur chef-d'œuvre. Voilà. Au fond, on a un très beau tapis qui nous est prêté par le Louvre à Abu Dhabi, justement.
Ah oui, qui est incroyable.
Dans le cadre de ce partenariat et qui va donc qui est venu à Paris et qui va repartir vers le Louvre Abu Dhabi pour l'exposition Mamelouk. Alors ça, c'est une pièce aussi exceptionnelle, de très grande dimension. Vous voyez que c'est un tapis qui, à l'origine d'ailleurs, était même un peu plus long et puis il a été sans doute un petit peu abîmé, on l'a raccourci. Et ça, c'est une production de la fin du sultanat Mamelouk, de ces tapis de grand luxe, qui sont très très fins dans leur réalisation et qui ont été produits au moins en partie pour l'exportation. Et en fait, ce qu'on conserve aujourd'hui, ce sont les tapis qui ont été exportés vers l'Europe. Il y avait une très bonne clientèle en Europe pour ce genre de tapis et notamment les Italiens et un certain nombre de ces tapis pour beaucoup ont été conservés dans des grandes maisons italiennes et on en a encore à Florence, à Venise mais on en conserve aussi un en Espagne, à Grenade, donc qui a été peut-être l'objet d'un cadeau diplomatique envoyé par les sultans Mamelouk au royaume de Grenade et ils sont datés de la fin du 15e, début du 16e siècle, donc vraiment la fin du sultanat où, semble-t-il, on a développé cette production de grand luxe. Mais on n'a pas conservé au Proche-Orient, finalement.
Mais c'est fou d'imaginer qu'à cette période, entre le XIIIe et le XVIe siècle, il y avait la richesse de ces échanges commerciaux et artistiques entre toutes ces régions et de savoir que des élites européennes, par exemple, pouvaient savoir que ce savoir-faire, cet art existait et qu'elles souhaitaient le faire venir.
Oui, mais effectivement, les relations, elles étaient bien plus importantes que ce qu'on aurait tendance à penser. Oui. Dès le début du sultanat, dès la fin du XIIIe siècle, les Mamelouks ont commencé à nouer des relations diplomatiques et commerciales avec l'Europe, avec les rois d'Aragon, donc en Espagne, et puis avec les républiques italiennes, évidemment, Gênes, Venise, et puis après Florence et donc les relations ont été continues en fait tout au long de la période Mamelouk. Effectivement les productions Mamelouk étaient très recherchées que ce soit les textiles, les tapis, le verre émaillé et puis le métal à décor incrusté qui est une autre spécialité de la période
comme
Mamelouk comme le baptistère de Saint-Louis.
Le baptistère de Saint-Louis.
Que vous avez vu.
Le mal nommé.
mais qui est évidemment un exemple extraordinaire, mais on conserve énormément d'objets en métal incrusté. Donc c'était là aussi une technique qui existait déjà auparavant, qui s'était développée au XIIe siècle en Iran et puis qui arrive au Proche-Orient et qui a été portée aussi à une apogée à la période Mamelouk. Et donc ici, on a des exemples de cette production depuis la fin du XIIIe siècle avec des décors figurés qui sont dans la tradition antérieure. Et puis après, on développe des types de décors qui sont devenus un peu classiques pour les Mamelouks, à savoir des grands décors d'inscription. Hein, où on a une présence très forte, encore une fois, de l'écriture sur les objets. Et donc, on développe ces grandes inscriptions avec des caractères assez épais, assez larges, qui sont un peu monumentalisés, finalement, et qui transcrivent les titres, souvent des personnages, des sultans, des émirs ou d'autres membres des élites civiles. Et puis, pour les émirs, on y trouve souvent leur blason, puisque ça c'est une particularité aussi de la période mamelouk, c'est l'usage des blasons un petit peu comme ce qu'on trouvait en Europe à l'époque, sauf qu'en Europe c'était lié à des familles nobles, alors que au Proche-Orient on n'avait pas l'équivalent de ces familles nobles héréditaires. Puisque les mamelouks, c'était un petit peu, ils se renouvelaient sans cesse. Donc c'était des blasons, alors soit qui étaient liés au sultan, soit qui étaient liés aux émirs, et qui correspondaient à une, souvent qui était un symbole d'une charge qu'ils occupaient à la cour à leur début.
Okay. C'était pour une personne, le blason en général.
Voilà, alors c'était lié à une charge qui pouvait être occupée par différents émirs successivement, voilà, donc ça pouvait être notamment une coupe. On retrouve souvent la coupe qui est la coupe de l'échanson, c'est-à-dire l'émir qui était en charge du service de la boisson du sultan, par exemple.
Et dans ces élites qu'on est en train d'évoquer, les charges civiles et les élites militaires, est-ce qu'il y avait des femmes? Parce que je crois que la place de la femme dans la civilisation mamelouk, elle est intéressante.
Ben, en tout cas, on peut la documenter, pas autant que celle des hommes, comme bien souvent, mais effectivement, comme on conserve quand même beaucoup de documents, il y a eu beaucoup d'histoires, de dictionnaires biographiques, ça c'est une spécialité aussi de l'époque, on a parfois des parties dans les dictionnaires biographiques avec des biographies de femmes qui appartenaient...
Pourquoi on appelle ça un dictionnaire biographique?
Ben, en fait, ça a été un style de production qui est un petit peu une forme d'histoire, si on veut, mais qui s'attache à la vie des personnages. Donc, c'est souvent, on considère ce qu'on appelle les élites, en fait, finalement. On ne s'intéresse pas beaucoup, il faut bien dire, aux artisans, voilà. Mais on s'intéresse aux élites, donc ça peut être les mamelouks, les émirs, et puis aussi les membres de l'élite civile, donc des gens qui étaient des savants, souvent c'était... Voilà. Mais aussi des femmes qui pouvaient, elles aussi, être éduquées et être savantes, et notamment... œuvrer, enseigner les sciences religieuses, notamment. Il faut que je remonte un peu mon micro pour qu'on m'entende.
Désolé.
Voilà, l'astuce, donc, c'est collé au menton.
Ça
bouge plus. Ça bouge plus.
Elle pouvait enseigner elle-même les sciences religieuses, ce qu'on appelle les hadiths, donc les dits et faits du prophète, etc. Et enseigner aussi bien aux femmes qu'aux hommes, d'ailleurs. Elle pouvait avoir certaines positions. Il y avait des femmes qui étaient un peu des femmes d'affaires, qui faisaient du commerce. Et puis, évidemment, des femmes qui faisaient de l'artisanat.
On n'a pas eu de femmes sultanes.
On a eu des femmes sultanes. Alors, on a eu une sultane au tout début de la période mamelouk, la fameuse Shajarat ed-Dur, mais qui a régné de manière très très brève, quelques mois en fait. Ça s'est un peu mal terminé pour elle. Mais voilà, c'est une exception. C'est vraiment une exception dans une période un petit peu troublée de formation de l'État mamelouk. C'était vraiment au tout début. Par la suite, on a eu que des sultans, et donc elle n'exerçait pas un pouvoir, en tout cas officiel, mais dans l'entourage du sultan, de la cour, elle pouvait avoir évidemment beaucoup d'influence, et ça, on en a des exemples.
Et la période mamelouk, d'un point de vue diplomatique, on peut considérer qu'il y a eu en effet l'invasion mongole, mais indépendamment de ça, ça a été troublé, paisible, c'était une période un peu...
C'était des périodes qui alternaient les périodes calmes et les périodes troublées. Il y avait quand même des luttes de pouvoir, des luttes de factions au sein des
mamelouks,
à l'intérieur, des tentatives de scission, notamment entre l'Égypte et la Syrie. C'était pas toujours un pouvoir stable, même si dans l'ensemble, le système s'est maintenu quand même de manière remarquable pendant plus de 2 siècles et demi, alors que tout autour, les pouvoirs changeaient de manière beaucoup plus radicale.
Il y avait des agressions extérieures. On a parlé des Mongols. Il y a eu des batailles contre les croisés.
Oui, alors il y a eu les croisés qui étaient présents au moment où les Mamelouks s'installent. Leur territoire avait déjà été un peu réduit. Et les Mamelouks ont finalement chassé les derniers États croisés, avec notamment la bataille d'Acre de 1291, qui a vraiment signé la fin de leur présence. Mais effectivement, il y avait ce facteur-là. Il y avait les Mongols. Mongols, et puis les dynasties autour. Il y a eu les Ottomans après, qui vont finalement et bien avoir le dessus sur les Mamelouks en 1517. Ouais. Même avant cela, il y avait eu les invasions de Tamerlan autour de 1400, qui venait lui aussi d'Asie centrale et qui a occasionné beaucoup de destruction et de morts parmi la population. Donc oui, il y a eu des périodes troublées. Il y a eu de la peste aussi. Hein. Il n'y a pas que les envahisseurs. Il y a eu la grande peste du milieu du XIVe siècle qui a sévi en Europe et au même moment au Proche-Orient et qui a été aussi qui a eu des conséquences assez dramatiques pour le territoire mamelouk.
Est-ce que Karine, nous on va doucement se rapprocher de Frédéric, vous savez, qui est un développeur qui va nous parler des jeux vidéo Age of Empire. Vous êtes gameuse un peu
Alors j'avoue, pas tellement.
pas encore.
Pas tellement, mais je suis ravie de découvrir cet univers à l'occasion des Mamelouks. Justement, quand j'avais commencé en fait à travailler sur l'exposition, je m'étais dit mais quand même. Ça serait bien d'avoir un jeu vidéo sur les Mamelouks. Oui. Et en fait, je ne savais pas qu'il y avait un contingent Mamelouk. Voilà,
c'est ça. Votre regard va nous intéresser parce que vous allez nous regarder jouer. Vous allez voir ces fameuses unités Mamelouk. Vous nous direz si elles sont.
Elle est dans le jeu ça fait presque bien 25 ans qu'elle est dans le jeu. Donc, il y a 25 ans, on avait déjà les Mamelouks. Qui, je crois, ne sont pas trop correspondent pas voilà. trop à ce qu'on voilà, à l'idée qu'on
on,
s'en faisait,
on les
mais
peut-être pas
le nom était là.
Choisi exactement pour illustrer
oui,
les Mamelouks.
Ils ne sont pas illustrés de manière très précise.
Alors que les équipes qui travaillent aujourd'hui sur ce jeu, notamment dans les derniers opus, notamment dans le 4, mm-hmm. Je pense sont beaucoup plus proches de la réalité historique. Alors justement, puisqu'on parle de l'aspect, parce que l'exposition focus beaucoup sur l'art, toute la production artistique de cette civilisation Mamelouk, qui était aussi une civilisation de la guerre, de l'art de la guerre. Et là, c'est une partie de l'exposition qu'on ne peut pas visiter, mais je crois que c'est une partie de l'exposition avec des armures.
Bien sûr, il y a d'abord toute une introduction historique qui explique ce système Mamelouk et l'État Mamelouk. Et puis, il y a effectivement une partie sur la culture militaire qui est importante pour cette élite et puis pour l'ensemble de la société. Donc, effectivement, avec un choix d'éléments d'armure et d'armes, des manuels aussi, des traités sur l'art militaire, finalement, qui sont illustrés avec des peintures qui montrent des entraînements à différentes armes, à l'arc, à la lance, à l'épée. Donc, on a essayé de restituer un petit peu cet univers-là.
Il y a une question qui me plaît beaucoup dans le chat, que je vois souvent revenir, c'est-à-dire que les gens qui veulent voir cette exposition de leurs yeux, c'est jusqu'à quand se tient-elle? Je ne sais pas si vous avez la date en tête, je ne l'ai plus.
Jusqu'au 28 juillet.
Ah bah ça va, on a un petit peu de temps, jusqu'au 28 juillet.
Temps, mais ça va arriver vite.
Oui, oui.
Mais ça veut dire que vous avez ceux qui auront un peu de vacances, là, et si vous passez par Paris, voilà, c'est au Louvre, n'hésitez pas. C'est vrai que finalement, ça va passer vite.
Ça va passer vite, voilà. Il y a deux soirées en nocturne qui peut-être facilitent aussi la visite pour certains, le mercredi et le vendredi soir.
Je vois des « je viendrai » pour l'exclamation dans le chat. Ça donne envie encore, voilà.
C'est grand,
voilà. Alors voilà, fin 28 juillet, mais c'est demain, on peut avoir une rallonge. Ben
Mais après, il faut aller à Abu Dhabi, pour la rallonge.
Voilà, c'est Abu Dhabi. Bon, en tout cas,
parce qu'on ne peut pas dire à Abu Dhabi, attendez, on va décaler.
Ça va être dur à négocier.
Je vous laisse, le rendez-vous est pris, je viendrai, j'y compte bien. Je dois venir au mois d'août, je suis deg. Petit aller-retour.
Il faut venir au mois de juillet.
Vite fait, quoi.
Décaler sa visite.
Voilà. En tout cas, vous n'aurez jamais la chance, et je vous remercie encore une fois, d'avoir eu une visite privée. On était en tête à tête tous les deux et c'était formidable. Et moi, j'ai eu notamment un coup de cœur pour ces vases incroyables.
Merci
beaucoup de ce cadeau.
C'est toujours une chance de voir l'espace vide pour soi tout seul. C'est toujours impressionnant.
C'est des conditions incroyables. Donc, nous, on va se revoir après la phase de jeu avec Alpha. Donc, votre regard m'intéresse beaucoup sur ce jeu vidéo. Et qui sait, peut-être que notre invitée va devenir une gameuse, elle aussi. Et on ne sait jamais.
Je ne sais pas si j'aurai ce talent.
Et ce temps, parce que je sais que vous êtes très occupé.
Il faut du temps pour devenir une bonne gameuse, j'imagine.
Je confirme, moi-même, j'ai investi du temps et le résultat n'est pas fameux. Je vous pique le micro et je vous retrouve tout à l'heure.
Ouais, je vais t'aider.
Merci beaucoup. Merci à tout à l'heure.
Merci.
Donc les amis, là, on vous emmène dans une nouvelle étape de ce stream puisqu'on va rejoindre un nouvel invité. Voilà, pour parler plus spécifiquement de Age of Empires et des jeux, on va retrouver le canapé où on était avec Alpha. C'est parti.
Il nous attend déjà. Magnifique. Hop. Bah du coup, je passe la sucette.
Ça va, Frédéric?
Ce sera plus simple comme
Frédéric,
ça.
Frédéric, ça va?
Oui.
On se tutoie, on se voit.
On se tutoie.
On se tutoie. Entre gamers.
Ouais. Bonsoir Samuel, bonsoir Alpha.
Bonsoir. Alors Frédéric Cramp. Alors deux studios Forgotten Empires, studio de développement qui travaille avec World Health Studio et qui a travaillé sur Age of Empires.
Tout à fait. Hein
et joueur lui-même depuis.
Très longtemps.
Depuis combien de temps?
Depuis 25 ans, depuis que le jeu est sorti.
Ah, bienvenue au club.
Exactement.
On pourrait dire que c'est ton jeu de cœur, c'est ton jeu.
C'est mon jeu de cœur, oui. C'est mon jeu de cœur. J'ai commencé à jouer à ce jeu quand il est sorti, bah, comme toi.
98.
En 98.
Quel âge ouais. À l'époque, du coup
J'étais en 6e, donc j'étais tout petit. Et on jouait à ce jeu avec des amis, aussi bien en solo qu'en multi. Enfin, on a toujours pris beaucoup de plaisir. Et ce jeu m'a un peu fait tomber dans la marmite de l'histoire. Comme toi, j'ai l'impression.
Oui, voilà. Pareil.
J'ai toujours gardé ce goût grâce à Age of Empires et grâce à cette franchise pour l'histoire en général, l'histoire des civilisations, l'histoire de... Voilà, de...
L'histoire avec un grand H.
Avec un
et
grand
ça, c'est une chose que j'ai souvent entendu, que ce jeu et ce type de jeu étaient des jeux qui avaient fait rentrer dans l'histoire beaucoup de jeunes, en fait.
Oui, je pense, oui.
On est très loin des idées reçues sur le jeu vidéo qui isole, le jeu vidéo qui abétit. Là, on a un jeu, par exemple, qui, comme tant d'autres, en fait, nous amène vers autre chose. Là, c'était l'histoire.
Tout à fait. Et on a la chance sur notre jeu d'avoir deux composantes. On a la composante multijoueur, où on peut jouer avec des amis, on peut jouer contre l'IA. Donc, on peut s'amuser à plusieurs. On peut aussi jouer en solo pendant des campagnes, en fait. On traite beaucoup, beaucoup de campagnes historiques, oui. Dont, par exemple, des campagnes comme Saladin ou Tamerlan qui touchent de près ou de loin l'exposition qu'on voit aujourd'hui. Et donc, c'est intéressant parce que grâce à ce jeu, on peut parcourir un peu ce qui s'est passé dans le passé, un peu partout à travers le monde, d'une manière ludique. Et ça, c'est
vraiment... Ouais, là, j'ai des commentaires. Constance, prof d'histoire grâce à ce jeu.
Ouais.
Hein, tu vois. J'adore l'histoire grâce à ce jeu.
Et oui, oui.
Exactement.
Et en fait, c'était même, c'était un peu aussi à l'époque, ça pouvait être avec des parents un peu récalcitrants. Des fois, c'était l'argument. Regarde, je fais exactement. La campagne de Jeanne d'Arc, j'apprends l'histoire, laisse-moi jouer aux jeux vidéo. Moi, salut papa. Ça a bien marché. Mais c'est vrai que c'était incroyable comme porte d'entrée, quoi. Alors, c'était pas le plus fidèle, hein, toujours, mais c'était assez, assez précis et assez, assez renseigné pour que ce soit une belle porte d'entrée et qui nous fasse s'y intéresser, quoi.
C'est ça. Disons que le jeu, il y a 25 ans, effectivement, avait quelques imprécisions. Oui. Mais aujourd'hui, la manière dont on travaille sur ce jeu, à chaque fois qu'on rajoute du nouveau contenu, notamment des nouvelles civilisations, des nouvelles campagnes ou des nouvelles histoires pour raconter ce qui s'est passé dans certaines régions du monde, on a d'abord un énorme travail de recherche historique. On travaille avec des historiens et des consultants qui vont aller lire des livres, se renseigner auprès d'articles scientifiques ou dans des universités, ou même au niveau de l'iconographie, voir ce que les musées proposent, par exemple. On a la chance aujourd'hui d'avoir des magnifiques pièces qui sont encore là pour nous témoigner ce passé. Et on peut se servir, nous, de ça aujourd'hui comme un matériau de base qui va nous permettre de construire par-dessus un design pour une nouvelle civilisation, une nouvelle unité, une architecture pour des bâtiments, par exemple. Donc tout ça nous sert vraiment de base. Après, ça reste un jeu vidéo, ça doit être divertissant avant tout, parce que malheureusement, si les gens ne s'amusent pas, ils ne restent pas, et donc ils n'apprennent rien. Donc notre but premier, c'est quand même que les gens s'amusent. Donc on ne sacrifiera jamais le fun pour être précis en termes d'histoire, mais l'histoire sera toujours, on va dire, notre matériau de base pour créer quelque chose de fun et d'agréable et des, on va dire, des histoires épiques. Et voilà.
Ouais.
Il y a un souvenir mignon dans le chat qui évoque ce que tu disais, Alpha. Apex, je me souviens de ma mère au-dessus de mon épaule pendant ma campagne Jeanne d'Arc qui découvrait que le jeu vidéo, c'était pas que des flingues. Et comment es-tu passé de joueur en 6e passionné de Age of Empires à ton poste aussi développeur?
Donc moi, je suis chef de projet,
au
sein d'un studio, Forgotten Empire, qui est un studio d'une centaine de personnes. Je travaille avec une équipe ultra talentueuse de passionnés d'histoire et de jeux vidéo. On est une cinquantaine à travailler sur ce jeu, entre Blizzard.
Vous travaillez sur quel opus, du coup, pour le...
Alors, Forgotten Empire travaille sur le 4, le 2 et Mythology. On a aussi travaillé sur le 3. On est un peu sur toute la licence. Moi, je travaille spécifiquement sur le 2 avec une équipe de 50 personnes, des artistes, des designers, des codeurs. On a même un compositeur, des historiens, vraiment une équipe de talents et de passionnés. Ça fait maintenant 3 ans que je suis là. Et je suis tombé par hasard. En fait, ça fait 10 ans que je suis dans le jeu vidéo et j'ai vu par hasard une offre d'emploi dans ce studio. Et je me suis dit, voilà, J'ai trouvé le job de ma vie.
Avec une formation qui était en rapport ou pas? Parce que,
Non, enfin, j'étais déjà dans le milieu, on va dire. J'ai eu la chance, voilà, de tomber dessus et de.
Est-ce que tu viens de la scène du modding initialement ou...
Non, en fait, le studio lui-même a été créé par, on va dire, une équipe de modeurs.
Ah oui.
À la base, le jeu est basé, le studio est basé sur un mod qui a eu du succès.
On peut rappeler ce que sont les modeurs, pardon.
Les modeurs, en gros, c'est des gens de la communauté qui utilisent, par exemple, le jeu ou l'éditeur de scénario du jeu pour créer du contenu supplémentaire et des choses. Voilà, qui sont custom, qui sont...
Donc le studio, à la base, ce sont des modeurs.
C'est ça, des modeurs. Et qui s'est construit, du coup, on a pu travailler après avec Microsoft, on a eu beaucoup de chance, et du coup, on a grossi, et aujourd'hui, on est une équipe professionnelle.
Par exemple, si tu veux, par exemple, dans Age of Empires, avoir une unité qui s'appelle le SAM...
Je peux.
Et c'est toi, en tout petit, qu'on contrôle, et qui one-shot tout, on peut créer un mode, et on peut avoir un mode, le SAM.
D'accord.
Voilà. Oui. Ça, c'est ça,
il
un mode.
Il est encadré, il est limité.
Ah bah non.
Pas tellement, non.
Ah non, on fait ce qu'on veut.
Ah bon, c'est vrai.
Les joueurs sont libres de télécharger ou non, mais après, voilà, c'est ça. On peut avoir le SAM. Ouais.
Il existe, c'est possible.
Et donc, la bataille à laquelle on va jouer là, sur Age of Empires 2.
À Angelhout. Ouais.
Voilà, cette bataille, donc, elle n'existait pas il y a encore peu. Je crois qu'elle est accessible depuis hier.
Exactement.
Je pense que Joe va remettre le lien dans le chat ou en cliquant sur ce lien pour ceux qui ont déjà le jeu, eh bien, en fait, peuvent la télécharger. Et donc, c'est un partenariat avec le Louvre. L'histoire est incroyable. Et ça a dû se faire très, très vite. Combien de temps?
Ça dépend de comment tu la joues, mais je pense qu'en une vingtaine de minutes.
Non, mais je veux dire,
pour la créer.
La conception.
La conception.
Déjà en train de jouer.
Le concepteur qui a créé ce scénario est quelqu'un de chez World's Edge, qui est très talentueux. Il a, je crois, fait ça en 3 semaines.
En 3 semaines.
Voilà.
C'est fou.
Bon, il faut passer du temps. C'est quand même du boulot, mais je veux dire, on peut faire beaucoup de choses avec le modding aujourd'hui dans beaucoup de jeux vidéo d'ailleurs.
Donc, Age of Empires 2 continue à évoluer. Alors régulièrement, il y a des ajouts comme ça.
Et justement, j'ai des questions, moi, notamment sur quand vous travaillez donc sur Age of Empires 2, sur notamment l'ajout de nouvelles civilisations.
Ouais.
Un peu le sel, hein, toujours, on attend, on se demande qu'est-ce qui va être la prochaine civilisation. Vous partez sur une idée de design en vous disant j'ai une idée de mécanique qui serait cool à intégrer, ou vous partez sur une trouvaille historique d'une civilisation et vous adapter en imaginant une mécanique autour de cette civilisation?
Plutôt le deuxième, c'est-à-dire qu'en général, avant de partir sur une nouvelle extension avec des civilisations et des campagnes, on va chercher une période de l'histoire qui est intéressante à traiter. Je dis des choses au pif, les croisades, la guerre de 100 ans, ce genre de choses, ou le sultanat mamelouk par exemple. Et on va se dire, ok, ça a l'air sympa, il y a du matériel à traiter dessus, donc on va faire des recherches. Et une fois qu'on a toutes ces recherches, on va créer, par exemple pour les civilisations, des personas de civilisation. On va dire, par exemple, je sais pas, les Japonais avec les samouraïs, ça va être une civilisation d'infanterie. Les archers britanniques, qui étaient connus pour être redoutables à l'époque, les Britanniques sont une civilisation d'archers. Pareil pour les campagnes, on va vouloir traiter, je sais pas, par exemple Genghis Khan, Jeanne d'Arc, Tamerlan. On va pas forcément vouloir faire une biographie, on va vouloir créer une histoire épique qui narrativement est intéressante pour le joueur, pour le faire parcourir des événements d'histoire qui sont arrivés le plus précisément possible, mais tout en racontant quand même une histoire. Donc on se base sur ça pour ensuite créer des designs intéressants autour de cet élément narratif. Historique, pardon.
Ok.
Bon, on nous demande beaucoup de jouer, bien sûr. Alors, j'ai des petits messages personnels. Frédéric, tu y répondras ou pas dans le chat, en replay, en mode est-ce que quelqu'un a un numéro de Fred? Voilà. Fred est-il célibataire? Écoute, je te laisserai voir le replay.
Non.
Bon, c'est plutôt non. Hein. Voilà, je réponds.
Calmez-vous.
C'est des questions.
Calmez-vous.
Calmez-vous. Bon, écoute, ces questions existent. Donc,
ça me touche beaucoup.
Et donc, avant de passer au jeu, toi et le studio auquel tu appartiens, les projets, c'est peut-être des choses qu'on ne peut pas révéler, peut-être, mais est-ce qu'autour de Age of Empires, il y a des... Regarde, les yeux qui
s'arrêtent,
il y a des choses qui vont arriver.
Tu poses des questions intéressantes. Ça,
alors, évidemment, je ne peux rien dire, mais le jeu n'est pas prêt de mourir. Voilà.
C'est bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Non, et moi, j'ai une question sur les ajouts de civilisation. Vous avez une limite ou vous dites...
Ah oui.
Toujours, s'il y a de la place pour une civilisation que vous n'avez pas traitée, allons-y et vous n'imposez pas de limite.
La limite, j'ai envie de dire, c'est l'histoire.
Ah oui.
À la fin des fins, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut pas.
Oui, c'est sûr que
quand
on
aura tout traité, on aura tout traité. Mais l'avantage aussi, c'est que l'histoire évolue. Je veux dire, l'histoire qu'on a, qu'on, enfin, je veux dire, l'histoire est en permanence débattue, on trouve des nouvelles choses, etc. Donc, il y aura peut-être de nouvelles choses à traiter plus tard. Mais de manière générale, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites parties du monde et de l'histoire qui n'ont pas été traitées. Donc,
ouais.
Ce sera, enfin, voilà.
Et sur Age of Empires 2, vous vous êtes mis une limite de date exacte pour les civilisations dans que vous explorez ou un peu ça.
Alors en gros, on traite le Moyen Âge qui part de, si je ne m'abuse, on traite de la chute de Rome jusqu'au début de des grands empires, de la colonisation et ce genre de choses.
Ouais, parce
vers la poudre à canon. Et,
il semble qu'il y a eu les Romains récemment qui ont été ajoutés.
Alors c'est les Romains, c'est pas les Romains, Jules César,
etc. Oui, c'est les Romains, c'est la fin.
Juste avant au moment de la chute de Rome.
Ouais.
On a aussi les Byzantins qui sont l'autre partie de l'ancien empire romain. Mais donc voilà, on a traité ça, c'est plutôt le point de départ.
Mm-hmm.
Le point d'arrivée, c'est, on va dire, avant l'expansion de l'Empire Ottoman, par exemple.
Ouais.
Donc la fin des Mamelouks colle bien avec plutôt la fin de la timeline.
Mais on a même les conquistadors. Je...
Oui,
bah ça peut même
de l'Amérique, Christophe Colomb, tout ça.
Oui, c'est vrai. On va jusque-là, du coup. Ouais. Mais non, mais c'est d'accord. C'est pour essayer de deviner les prochaines civilisations qui vont être ajoutées.
Mais dans le chat, ça pose plein de questions. Hein, d'abord, un chat qui est très content parmi les passionnés du jeu que ce jeu soit toujours aussi vivant, qu'il continue à évoluer. Voilà. Bon, toi, Alpha, tu le sais parce que
c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'il y a toujours une grosse base de joueurs sur le 2. Et on est à quasi. Enfin, je me demande si on n'a pas plus de joueurs sur le 2 que le 4 ou si c'est à peu près équivalent. Je ne sais pas trop.
Il semble, ouais. J'ai pas les chiffres en tête. Mais
c'est impressionnant.
Un petit peu, ouais.
Mais ce qui est bien, c'est que les deux jeux ont vraiment leur base de joueurs. Et
tu veux dire qu'en général, le joueur ne joue pas aux deux. En général,
En fait, sur des jeux classiques, on joue sur le dernier.
Ouais.
Mais l'épisode 2 est tellement fort, a laissé tellement une marque forte qu'on a quand même toujours une très très grosse base de joueurs dessus. Et ça fait plaisir de voir que vous en occupez aussi bien, aussi depuis tout ce temps.
Ouais. Merci.
Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de gens qui restent, forcément. Ouais.
En fait, il y a deux composantes pour moi. C'est vraiment les gens comme nous qui avons grandi avec ce jeu, qui sont encore et toujours là pour une grande part d'entre eux. Et il y a aussi des nouveaux joueurs qui arrivent. On a une scène compétitive avec des tournois d'e-sport, qui est quand même pas rien pour un jeu de cet âge-là.
C'est génial.
Et qui continuent à vivre et à grossir. Enfin, c'est vraiment impressionnant. On a des gens qui ont un niveau sur ce jeu qui est incroyable.
Oui. The Viper, qu'on salue, bien sûr.
On les salue.
On a pas fait, toi, d'e-sport sur
Ah non, j'ai pas fait d'e-sport, mais j'ai commenté beaucoup et j'aime bien jouer au jeu, mais je ne prétends pas. J'ai passé l'âge. Je ne peux plus.
Attendez, c'est ce qu'on va faire, on va jouer. Il y a une tasse qui intrigue beaucoup certains, là, voilà. Ah. Toi, qu'est-ce qui est écrit sur cette tasse, là?
À votre avis, le chat.
Alors, parce que.
Sur une tasse avec écrit Lolo dessus, c'est Wololo, bien sûr.
C'est Wololo. Alors, le Wololo, je l'ai vu dans mon chat quand j'ai lancé Age of Empires 2, je n'ai pas la ref. Qu'est-ce que c'est, Wololo? Mais non, enfin, vous m'avez expliqué vite fait, mais c'est un cri de.
La ref, t'es assis dessus en vrai. Le Wololo, c'est en fait le cri des prêtres dans Age of Empires 1 qui a été repris dans le 2 quand ils convertissent une unité ennemie.
C'est ça.
Et donc, c'est vraiment un son iconique du jeu. Et,
Wololo. Ouais,
voilà. Et moi, j'ai une question du coup. Pourquoi Wololo?
Parce que là, je l'ai, le Wololo, il est là.
Je suis pas sûr de pouvoir répondre à ça.
Ah, t'as pas.
Peut-être que le chat a toujours la réponse. Alors, le chat, d'où vient Wololo?
Pourquoi Wololo? Je pense qu'ils répondront Wololo.
Alors, pourquoi Wololo? Est-ce que vous savez l'origine de Wololo?
C'est vrai, pourquoi Wololo?
Est-ce que le chat sait?
Ça vient du 1. C'est le premier Wololo. D'ailleurs, au final, le seul Wololo. Ah non, dans le 4, il y a aussi le Wololo, c'est vrai, ils l'ont remis. Mais dans le 2, il n'y a pas de Wololo.
Et il me semble que si.
Et il me semble que les moines ne font pas de bruit de Wololo, non? Dans le 4.
Ah, si.
Ah, oui?
Parce que Wololo,
c'est ça. Que j'y ai joué,
j'ai un chat qui est envahi par le Wololo. Fred, un grand merci. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci de ta passion. Nous, on va aller jouer.
Bien sûr.
Donc, à Age of Empires 2 pour moi, mais coaché bien sûr par Alpha.
Il n'a jamais joué en RTS.
Vite fait, toi, je fais des tutos, tout ça.
Ça va bien se passer.
Ça va bien se passer. Mais il ne faut pas que je sois trop lent non plus, parce que vous savez, moi, je peux passer 4 heures sur un tuto parce que j'aime prendre mon temps. Là, on n'a pas le temps.
Les Mamelouks comptent sur toi.
Parce qu'à un moment, le Louvre doit fermer. C'est ça le problème. Merci Fred.
Merci beaucoup.
Allez. Merci.
Donc nous, je pense qu'on peut poser nos micros, puisqu'on va jouer avec les casques micro là. Hop. Ah, on n'a pas de retour. Ah si, on a un retour. Je pense qu'on a on peut régler notre volume ici.
Le clavier, la souris, il connaît.
Je pense que tu peux régler ton retour ici.
Moi, c'est bon.
Vous entendez bien, les amis? On a changé de...
On est bon.
Très bien. Donc là, on est sur Age of Empires 2.
Tout à fait. Donc, la définitive édition, hein, qui a du coup, qui a un très joli remaster.
Voilà.
Un remaster comme on aime, pour le coup, avec vraiment des graphismes extrêmement jolis. Et on va jouer donc
la bataille d'Ain Jalou.
Exactement.
Qui a été ajoutée hier.
Hier, tout voilà. à fait. Et on va la jouer donc sur le 2 et ensuite on la jouera sur le 4. Et pour le coup, elle a été ajoutée avec le dernier DLC. Et voilà, donc je t'invite à aller sur le mode 1 joueur.
Et Joe va nous mettre le lien que tous ceux qui ont déjà le jeu, Age of Empires 2, voilà, ou qui ont accès d'une manière ou d'une autre, eh bien, peuvent, grâce à ce lien, hein, c'est une bataille qui a été développée en partenariat avec le Louvre, eh bien, la télécharger. On va sur campagne et regarder.
Alors ça, c'est toutes les campagnes présentes dans le jeu de base. Hein, donc on parlait de Jeanne d'Arc tout à l'heure. William Wallace, qui est la campagne du tutoriel.
Bien sûr.
Voilà, et à droite...
Je suis en plein dedans, moi. Je suis à la fin du tuto, là.
Ah, t'as fait le tuto du 2?
Ouais, cet après-midi, c'était Voilà.
Alors, c'est pas là.
Ah, c'est là. C'est pas encore.
Attends, non, c'est personnalisé.
Campagne personnalisée. Et regarde,
elle est là. Donc, c'est le scénario officiel du Louvre avec donc doublage français. Le scénario est très sympa. Donc, eh bien, on va y aller.
C'est parti.
Bon, Ain Jalout.
Standard, c'est bien.
Oui.
Standard, c'est bien.
De toute façon,
Non. Oh, j'ai fait un.
T'as fait retour.
Hop, c'est parti.
On a déjà du mal dans le menu.
Arrête de te moquer de moi. Tu sais bien que c'est compliqué pour moi.
Il faut cliquer sur Ain Jalout.
Ah, faut cliquer là.
Voilà.
Musée du Louvre, Paris. Accueil du 30 avril au 28 juillet 2025. Une exposition exceptionnelle consacrée aux Mamelouks, 1250-1517 après Jésus-Christ. À travers près de 260 œuvres d'art et objets précieux, manuscrits, armes, textiles, peintures, objets précieux, elle donne à voir la virtuosité militaire, la richesse culturelle et la puissance politique de cet empire égypto-syrien légendaire. La scénographie immersive permet de plonger au cœur de cette civilisation brillante et singulière qui constitua un âge d'or pour le Proche-Orient à l'époque islamique.
En fait, on n'avait rien à expliquer, tout était dans le jeu.
Tout. Dans la culture populaire, Age of Empires 2 a fait découvrir ses guerriers mythiques à des millions de joueurs, non sans quelques inexactitudes historiques corrigées dans les jeux ultérieurs. Le musée du Louvre s'associe aujourd'hui à World's Edge et Age of Empires pour créer un scénario officiel, jouable, qui vous permet de revivre la célèbre bataille d'Ain Jalout. Le 3 septembre 1260, les Mamelouks affrontent l'Empire mongol et stoppent leur expansion vers l'ouest. C'est un tournant historique majeur qui empêcha les Mongols d'installer leur domination sur le monde islamique.
1260, je rappelle.
Nous sommes en septembre 1260.
J'ai connu ça.
L'air est chaud. Et le sol poussiéreux.
T'en souviens ?
Bébars, ancien esclave devenu général, est revenu au service de son ancien rival, le sultan Mamelouk Qutuz. Une alliance née d'une situation désespérée. Bagdad est en ruine.
Je me souviens.
L'armée mongole a saccagé Alep et pris Damas et poursuit son avancée en Syrie, où elle enrôle au passage des prisonniers croisés. Seuls les Mamelouks résistent encore à l'expansion mongole.
C'était les irréductibles.
Le sultan Qutuz rassemble son armée pour affronter les Mongols près d'un village appelé Ain Jalout.
Voilà, c'est la bataille.
Où la légende dit que David aurait tué le géant Goliath. Il envoie Bébars, son plus proche général, en éclaireur, pour préparer son arrivée.
Et nous, on va jouer justement... Bébars et son armée.
Et oui, voilà. Tu vas voir, il va te parler, Bébars. Il a plein de choses à raconter.
Ah bon ? Mais comment tu fais ? Comment...
Ça commence.
Allez, bon. Alors attends.
T'as pas besoin de trop te toucher à ça.
Non, ok, ok. Donc là, on est.
T'as juste à écouter là.
Ah oui, ok.
Alors là, tu sélectionnes. Tu fais un carré de sélection. Comme si tu. Voilà.
Voilà.
Et là, tu fais R et clic droit vers les ennemis.
Ah, mais ils sont déjà là ?
R clic gauche ou R clic droit.
Ils sont déjà là.
Voilà, ils sont déjà là.
C'est pas possible, ça. On va calmer les archers déjà.
Non, tu fais juste R et clic gauche.
Ah, c'est pour la zone.
Ouais, clic gauche. Ils se déplacent, ils attaqueront tout ce qu'ils verront. Donc ouais, ça fait clic gauche là. T'as pas besoin de cliquer sur chaque unité.
Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, je leur donne des priorités, tu vois, attaquer les archers déjà par exemple, tu vois.
Ça marche.
Je suis très actif moi.
T'es quelqu'un de très actif, c'est vrai, que tu prends les initiatives.
Déjà j'aime bien leur donner un petit numéro moi.
Hop, voilà. Oh, il sait faire les groupes de contrôle.
Bien sûr, bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'il
met
mais
bien sûr.
On est sur un joueur e-sport là.
Mais enfin, mais je fais plein de groupes moi.
Bah, oui, c'est vrai que le joueur Zilan. Ok, alors là, tu vois, c'est pour ça qu'il faut, faut les faire se déplacer en attaquant.
Ah, mais... Voilà. Hop. Bon, ça, voilà, c'est réglé. Ah, faut peut-être faire un peu le ménage.
Alors,
bon, on est tranquille. Ok, très bien.
Kutuz arrivera bientôt à la tête de l'armée mamelouk.
Ok.
Nous devons défendre cette vallée face aux Mongols jusqu'à son arrivée.
Ok.
Voilà.
Donc là, l'idée, c'est peut-être d'aller trouver d'autres troupes.
Ah, attends, on va peut-être... Enfin, on va pas faire pause. Alors là, l'idée... Regarde la carte en bas. Ouais. Va pas par là.
Non.
Vaut mieux pas aller par là.
Ok.
L'idée, c'est d'aller sur les petits points avec des ronds sur la mini-carte.
Ah, ok.
Donc, descends.
Où il peut y avoir quoi ? C'est quoi
ça ? Eh ben, il y a justement, c'est écrit, trouver des éclaireurs de Baybars. Donc okay. Là, t'as des éclaireurs qui sont dans cette petite zone en bas, là.
Okay.
Donc, tu peux directement faire clic droit dessus. Voilà. Ils vont y aller. Si tu veux être sûr qu'ils vont pas se faire couillonner,
ouais.
R, clic gauche. Pourquoi sur la zone.
Pourquoi c'est quoi le R ?
R, ça leur permet d'attaquer tout ce qu'ils croisent.
Okay, okay.
Donc, ils vont pas se faire attaquer sans répliquer.
Très bien.
Tu vois ?
Je l'avais pas le R, moi.
Ah ! Tu vois, là, ils attaquent automatiquement.
Bien joué, bien joué. Très bon conseil,
voilà.
Alpha.
Ah, bah là, il faut s'occuper de ce camp, là. Et alors là, pendant ce temps, il faut que tu fasses des unités.
En même temps ?
Eh ouais.
Ok, alors là, il faut que je trouve la
alors,
caserne.
Là, alors, t'as les mamelouks, tu peux les former dans la forteresse.
Ouais, ici, là.
Donc là, alors déjà, on va les transformer en mamelouks
voilà. Bébé. Excellent.
Et ensuite, tu peux cliquer plusieurs fois sur le mamelouk.
Combien j'en crée ?
Bah, à fond. T'en mets à fond.
J'en mets 10 plus ?
Ouais, 10, c'est bien.
10. Alors,
ensuite, tu fais clic droit, faut mettre un point de ralliement.
Ici, par exemple.
Bah, oui, ou tu peux le mettre un peu plus en bas pour aider tes troupes.
Carrément,
ça se passe bien sinon en bas ?
Carrément là ?
Non, peut-être pas. Non, mais là c'est bien, en vrai, t'as raison. C'était bien.
Ici, voilà.
Bon, bah ça s'occupe
okay,
bien là.
Ok, très
t'as
bien.
Perdu beaucoup de troupes par contre là.
Sérieux ?
Ouais. Alors t'as des villageois devant qui font rien. T'as des villageois devant ton forum, chez toi. Voilà. Les trois devant là.
Les
trois ils font grève.
Ouais, on les emmène
voilà.
Où
Tu les emmènes faire. Tu vois, t'as des petites chèvres là. Ils vont récolter de la nourriture auprès des petites chèvres.
Est-ce que je peux construire des unités ailleurs que ici là ?
Ouais, tu peux aller dans le camp d'archer.
Est-ce que c'est là ?
Ouais, c'est là.
Voilà.
Je te conseille donc.
On fait évoluer ?
Évoluer arbalétrier lourd et tu nous fais des arbalétriers lourds.
Est-ce que j'ai assez de nourriture, tout ça pour,
T'en as un, ça va, mais tu vas faire aussi des chameaux.
Ouais.
Alors là, tu vas dans l'écurie.
Alors l'écurie, où est-elle ?
Juste là,
c'est peut-être
ça.
Ici. Voilà.
Voilà.
Et tu la fais évoluer aussi peut-être ?
Non, tu fais des chameliers plutôt.
Hussard, chevalier, chamelier.
Voilà.
Le fait évoluer peut-être ?
Ce serait bien, mais t'as pas assez d'or. Donc il faudrait que tu produises plus de villageois qui aillent récolter de l'or. Donc tu vas dans ton forum.
Le forum, il est où
bas.
Le forum ?
C'est le bâtiment L, là, au milieu.
Celui-là, là ?
Ouais.
Le petit, là ?
Et tu fais un clic droit sur l'or. Tu as de l'or, je crois, à gauche ou en haut à gauche.
Voilà. Ici, là.
Clic droit sur l'or direct.
Direct, ah oui, tout de
voilà.
suite.
Et là, tu fais plein de villageois. T'envoies plein de villageois et va voir comment se portent tes troupes, là, parce que je pense que c'est chaud, là.
Mais merde.
Ah, c'est bon,
ça va.
Ils s'en sont sortis.
Ça va, ok.
Et là, t'as tes éclaireurs.
Voilà, que j'ai retrouvé ici, très bien.
Et là, regarde, t'as toutes tes troupes. Il y avait plein d'éclaireurs.
Ah, très bien, très bien. Je vais faire un groupe.
Une épée de fer.
Ça, c'est impressionnant que tu maîtrises les groupes comme ça.
Très important, les groupes.
Ah, mais t'as appris ça où
En jouant avec Ninion à Age of Empires.
Ah, mais oui, mais t'as déjà une formation
oui,
un peu.
Ninion est venu du
Ninion qui a les bons conseils,
voilà.
Bien sûr.
Alors, elle n'est pas venue du Japon spécialement pour moi, mais elle était de passage en France, et très gentiment.
Ah, moi, elle si était venue spécialement.
Je vais là.
Ouais, tu peux aller là, ouais, tout à fait. N'oublie pas, t'as oublié un truc pour y aller.
Ah oui, le R.
Alors, faut sélectionner le groupe.
Donc, 1.
Voilà.
R.
Non, R.
Et clic gauche ici.
Voilà. Nickel. Tu peux rien à dire en fait.
Voilà. Et là je vais aller voir mes productions.
Je crois que t'en as trouvé d'autres en bas là d'un coup.
Très bien.
Oh. Et là il y a écrit, tu vois, dans les objectifs. Oh là, toutes les troupes que t'as. Oh, regarde tous ces mamelouks. Alors, c'est là où je pense qu'on va se faire un. On va discuter de ça. Hein. Mais donc, si tu regardes le mamelouk, tu zoomes un peu. Le mamelouk dans Age of Empires 2. Le guerrier mamelouk, c'est...
Il est sur des chameaux.
Il est sur un chameau et il envoie des sabres.
Alors qu'en fait, la réalité historique nous dit qu'il était
pas
plus sur
tout.
Des chevaux
oui.
Et pas, il n'avait pas des sabres.
Et puis, non, mais puis, globalement, à l'époque, je pense qu'envoyer son sabre, c'était pas une bonne idée.
Oui, exactement.
C'était un petit peu, bon voilà, romancé, on va dire, cette vision, très clairement.
Là, il faudrait qu'il ait...
Et il faudrait que tu ailles protéger... Là, regarde, t'as un objectif, protéger la vallée. Et t'as un village rose sur la carte, qui est attaqué, je crois.
Ici, là ?
Ouais, regarde là-bas.
Attends. Ici là ?
Non, au-dessus, sur la mini-carte. Regarde, le rond à droite là.
Ça ?
Ouais. Voilà, c'est attaqué, faut que t'ailles protéger là.
On y va là ? Direct ?
Ah, bah, là, faut mieux aller, là, c'est compliqué là.
Ok. Attends.
Le groupe.
Ça va trop vite.
Il faut refaire le groupe.
Ok, donc le groupe, il est fait. Un petit R, et je l'envoie ici, t'es d'accord ?
Au milieu.
Au milieu ?
Ouais.
Dans la baston ?
Au milieu, et au moins il t'apprend. Eh, t'as une belle armée là.
Et, et maintenant, il faut que j'aille voir aussi mes autres troupes là, elles sont où ? Regarde. Faut que je les envoie celles-là.
Ouais, c'est tes arbalétriers.
Un petit groupe de deux là.
Ah bah tu les envoies aussi hein.
Au même endroit. R. Ici.
Tu sais, tu peux faire clic gauche.
Voilà.
Pour voir là-bas.
Est-ce que j'en fais d'autres?
Bah, tu peux, ouais, t'as un peu de noir. Améliorer les chameliers. On voulait améliorer les chameliers initialement.
C'est où?
C'est dans les écuries.
Les écuries, c'est là.
Parce que les écuries, on trouve des chameaux, bien sûr.
Et là, ici. Voilà.
Dans toute logique.
Et j'en lance?
Alors, t'en lances.
J'attends un petit peu.
C'est bien d'en lancer plein. Les chameliers, c'est. Alors, pourquoi on fait des chameliers?
Or insuffisant.
Dans Age of Empires, les unités à chameaux sont plus fortes contre les chevaux.
D'accord. Ah.
Je vois pas trop d'où vient la logique.
D'accord.
Il y a probablement une origine historique.
Oui.
Mais d'ailleurs, on posera cette question.
Est-ce que je crée des villageois ou.
Oui, tu peux. Tu peux créer des villageois qui peuvent aller faire de la nourriture. Donc tu peux les envoyer sur les baies.
Attends, il y a le baston là.
Ah oui, bah là, faut faire R au milieu là. Parce que là, ils font rien là. Ils sont en vacances là. Ouais, voilà. Nickel. Là, t'es bien. Là, tu peux retourner gérer ta base. Ils vont. Mais tu peux même les faire traverser toute la base. Ils vont attaquer tout ce qui est sur
le chemin.
C'est vrai ? Ah oui, oui. Tu les fais aller à l'autre bout. Tu vois, genre à droite un peu là. Encore un peu à droite. Voilà, là, voilà. Et là, ils vont nettoyer tout là. Nickel.
Okay, super. Je retourne sur ma base.
Ouais.
La priorité pour toi, c'est de.
C'est la nourriture, je pense. Hein.
Nourriture. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire comme nourriture là ? Est-ce qu'on a vu des choses
À droite. À droite.
Oh, attends, il y a de l'or là.
Il y a de l'or.
Donc je peux envoyer des villageois là.
Tu peux envoyer des villageois, ouais. Bon, mais t'as toujours de l'or chez toi, donc t'as pas encore besoin
ça
de sortir.
Pas encore. Ouais. Alors attends, toi tu me l'as dit.
Donc tu fais des villageois. Alors déjà, ouais, envoie tes troupes pour aider les tiens.
C'est fait, ok.
Alors sauver l'autre village, je sais pas si tu l'as réussi ou si tu l'as raté.
Il y avait une poche là.
Je crois que t'es arrivé un peu trop tard.
Tu crois ? Oh zut. Elle est où mon armée là ?
Ouais, je crois que le village n'a pas été sauvé là.
Ah merde. Bah si, regarde, il y a plus de.
Il y a 4 murs, murs en ruine.
Ouais,
mais si, regarde, il est sauvé
regarde,
là.
Un mec, là,
c'est bon là.
Il y a un gars là.
Life finds a way.
Il y a un gars là.
Il y a une veuve au milieu du village qui se demande ce qui s'est passé.
Ça, c'est à moi ça.
Et oui, tu viens de découvrir des bédouins.
Ça, ils sont
regarde, clique sur eux. Clique sur un, juste un. Tu vois. Alors, non, au milieu. Celui du milieu. Voilà. Chef bédouin. Voilà, t'as des bédouins qui sont venus en aide. Eh, tu peux en faire un gros quand même. Ils ont même des moutons, des chèvres.
Contrôle 3, voilà, et je les envoie. Ton avis, je les envoie. Et on a des chèvres qu'on peut. Tu sais quoi, les chèvres, on peut les amener
Tu peux les amener ton moulin.
Ouais.
Pour faire de la nourriture, tout à fait.
Attends, il est où le moulin?
Il est là, juste au-dessus. Là
ici.
Ah bah d'ailleurs, ouais. Ils font rien eux.
Ouais,
bah, tu peux les faire faire des baies.
Hein. Baies. Voilà, let's go.
Tu peux faire des fermes aussi, tu sais.
Là, c'est intéressant de les faire maintenant. Là, c'est qu'est-ce qui manque là? Nourriture, on a pas mal. C'est l'or en vrai. Hein.
Tiens, place des fermes là-bas, près de la près du moulin, enfin à droite.
Ouais.
Là, et tu cliques près du moulin. Là. Tu cliques là.
Tchouk. Voilà.
Ça, c'est une ferme. Tu peux en faire une autre?
Ouais.
Je t'aide avec les raccourcis. Vas-y. Hop,
voilà.
T'as vu, on joue à deux.
Voilà.
Moi, je jouais comme ça avec mon frère à l'époque.
Oh, trop bien.
C'est petit.
Regarde, lui, il va faire une ferme. Allô aussi. CF
C'est ça. C'est QA.
Voilà. Ok. Et attends, est-ce que tu crois pas que je recrée des.
Fais des mamelouks, ouais.
Des villageois pour aller choper l'or, là. Tu vois.
Mais là, je crois que ton armée, il faut rajouter des mamelouks, là.
Tu crois? Donc les mamelouks, c'est ici, hein.
Ce soir, qu'est-ce qu'on regarde comme.
Attends, là, ici.
Faut faire des mamelouks.
C'est pas ici. Ouais. Mamelouk d'élite.
Clic, clic.
Une dizaine.
Oh. Voilà.
Bon, là. Voilà.
J'aime bien le. Non, 12.
12. Attends.
C'est un chiffre impair, ça t'allait pas.
Et des chameliers?
Il n'y a pas assez d'argent là, il faut faire un emprunt.
Ah bah tu vois, non mais c'est ce que je te disais, il faut absolument qu'on aille chercher.
Tu peux aller construire.
Ils sont où les villageois?
Et je pense que tu peux déjà, pendant que tu fais ça, envoie ton armée sur le X là au milieu de la carte. Parce qu'il faut que tu ailles faire quelque chose.
Ici là? Je les envoie là?
Ouais, envoyez là. Envoie tout le monde là.
Attends.
Boum, R clic là direct. R.
Ici.
Ouais, voilà, c'est bon. Là tu retournes gérer la base et puis t'es bon. Hein.
Voilà. 3, R, clic.
Ah, t'as la strat.
Voilà, ça devrait aller. On va voir. Est-ce que c'est...
Je pense que je peux deviner le genre de civilisation que tu joueras.
T'as vu?
Ouais, les civilisations de stratège.
Un peu agressif, non?
Un peu agressif.
Ouais. Ils font. Attends.
Ah bah t'as tes petits mamelouks. R. Alors R clic, c'est le mouvement d'attaque. On appelle ça comme ça. Okay, dans tous les jeux de stratégie, c'est élémentaire.
Moi je pense qu'il faut absolument créer des villageois. C'est où les villageois?
Oui, c'est ça.
2, 3, 4, 5. Et ils vont aller sur la mine d'or.
5, ouais.
Et ici. Hein,
ouais,
que
bah,
est-ce que je crée une mine d'or d'ailleurs là-bas?
Bah ouais, il faudrait peut-être créer un grand mineur, je pense.
Ok.
Alors là, fais voir ton armée là, parce qu'elle a l'air de se balader, ça a l'air d'être quelque chose là. Ah bah, il bouge plus. Ah mais oui, mais ils ont trouvé. Et bah je pense que là maintenant, faut que t'ailles à la croix là.
Limite de population, croix. Faut peut-être créer des maisons.
Ah oui, ah bah bien sûr.
Des maisons, donc on va prendre.
Mais Nini, si tu regardes ça, merci, tu l'as bien formé.
Hop.
Tu peux pas faire de maison. Ah, tu es limité à 100 de population.
Ah, je suis au maximum. Bon,
c'est pour peut-être simuler le fait que tu étais en infériorité numérique dans cette bataille.
Je les envoie où mes unités
Tu peux peut-être les envoyer là-bas pour trouver dans le rond là.
Où ça?
En fait, il y a des X. Il faut que tu ailles sur les X, je pense. Ah, c'est les camps mongols.
Alors ici, allez, c'est
parti. Ouais. Mais envoie tout le monde là. Envoie tout le monde là.
Voilà. Donc, c'est parti.
La finesse. Un peu la poésie. Oh là!
Attends, c'est... Merde.
Alors, recule. Alors là, faut que tu reviennes dans ta base.
Attends, ils sont où mes armées?
Là, c'est bon, tu l'as sélectionné.
Tu vois bien? On retourne
chez toi,
on recule.
Cachez-vous ici, ils ont dit. Ah non, faut que tu ailles te cacher.
À droite?
Eh oui, faut que tu te mettes sur les hauteurs.
Par où? À droite, là?
Permettez-moi d'attaquer sur les ronds. Et de
les attirer vers vous. Les ronds à droite, où ça? Ensuite. Quel rond?
Là, tu vois, t'as un petit camp là. Là, tu peux aller sur les drapeaux, faut aller sur les drapeaux.
Quel drapeau? Là, ici, là?
Non. Regarde là, on envoie des drapeaux là.
Comme ça, ici, là?
Ouais, juste là, tu les fais aller là.
Ok.
Mais peut-être pas tout le monde, parce que là, il faut que tu. Faut que tu un petit peu sépares ton armée. Là, faut que tu fasses un petit piège, tu vois, faut que tu les attires.
Attends.
Là, faut mettre un peu des gens là, un peu des gens là.
Ici, la journée.
Non, c'est des chèvres.
C'est pareil.
Tu veux mettre des chèvres pour tenter l'embuscade?
Là, les chèvres.
Historiquement, ouais. C'est ce qui s'est passé. Hein.
Attends.
Ils ont mis des chèvres. Ils ont attiré l'armée mongole avec des chèvres.
Non, c'est vrai ou pas? Attends, mais c'est à moi ça?
Oui!
Mais c'est bon! Mais je marche dessus là, on y va!
Attends.
Ils sont à moi les bleus là!
Ah oui, ils sont à toi!
Mais si! Ils sont déjà en tenaille là! Regarde! Moi je dis, il faut y aller là!
Non, faut que tu les attires déjà!
Dans la vallée? Mais à quelle vallée?
Il y a écrit, préparez-vous pour la bataille!
Ok.
Attirez l'armée mongole! Moi je pense, il faut que tu te mettes dans les cases rondes! Ok. Pour être peinard!
Là c'est ok!
Ah, regarde tout à droite le X là!
Ah, tu vois, je te disais qu'il
y a. Ça, c'est l'armée mongole!
Mais attends, mais il y a qui là? Les verts, c'est les alliés?
C'est ça, c'est le sultan. Oui, c'est le sultan Koutouz.
C'est des alliés, c'est pas des ennemis.
Ah, c'est ça. Donc là, en fait, faut que t'ailles les titiller, les rouges, et que tu les attires vers là où il y a l'armée du sultan.
Eh bon, on va y aller avec cette petite équipe là.
Ouais, ça m'a l'air d'être une équipe de gagnants.
On va les titiller. Nam. Venez, les titilleurs.
Ça me paraissait bizarre que tu sois si proche de l'ennemi. Que les vers. C'est vrai que c'était bizarre que les vers soient pas nous.
Mais attends, on est en nombre là.
On est en nombre, mais tu vas pas gagner. Là, faut que tu les attires. Tu vas les voir. Oh, je crois que tu peux pas traverser par là. Non, tu vas devoir passer par un pont. Hein. Faut passer par le sud, je pense, Sam.
Par le sud, tu crois?
Bah, regarde la rivière, hein. Regarde s'il y a un pont.
Comment elle est?
Ah, y a un gué, là.
Là, on peut passer là. Par là. Ouais, c'est bon. Donc, je les attire et je les amène vers le gros des troupes.
Moi, je te dis, je te laisse en roue libre.
Non, ne me laisse pas, surtout pas.
Je te laisse en roue libre gérer la bataille.
Non, pas du tout.
Je suis sûr que ça va bien se passer.
Non, pas du tout.
Franchement, Nini, elle a fait un travail de fou sur ton coaching.
Arrête.
Non, on est bon là. T'es un vrai stratège là. Non, mais réellement, je pensais que t'allais plus galérer. Donc c'est très très bien que t'aies eu un coaching.
Moi j'ai très envie de passer mes nuits sur Edge of Empire en vrai.
C'est vrai ça?
Ouais.
Tu dis ça parce que.
Non, le jeu.
Pour me faire plaisir, tu dis ça.
Mais le problème c'est que après tu joues Kassa. Comment tu fais pour résister à l'appel d'un jeu comme ça? Bon, on est d'accord que là, je les attire.
Ouais. Ah, ils sont appâtés. Ils sont appâtés.
Allez, putain, par contre, faut y aller les gars.
Il faut courir. Donc faut que t'ailles vers.
Là il y a un guet.
Faut que t'ailles vers le vert.
Ouais. Mais il suit toujours.
Oui, il suit toujours. Mets-lui un petit coup pour le rappeler là, le énerver un peu là.
Non, il vient, t'inquiète. Mm-hmm. Je vais attendre un petit peu.
Ah,
là,
regarde, non, ils s'arrêtent là.
Non, ils arrivent. Regarde, ils arrivent comme des fous.
Non, mais leurs petites flèches là. Oh, t'es pas joueur. Hein.
C'est quoi là?
Ça c'est des dindons ça. Non, c'est des cerfs. T'en as eu un? Eh, t'en as eu un.
Oui, mais.
Attention, lui il va se faire faucher s'il est pas avec tes gars. Ouais, c'est bien. C'est bien, on oublie personne derrière.
Ah non, jamais, on est jamais un frère derrière.
Ah, ça c'est bien.
Est-ce que je remonte bien là?
Ensuite, il faut aller à gauche.
On est pas mal là.
Attends, je suis pas sûr. Non, je crois que tu te sens. Descends.
Merde, tu crois?
Non, si, c'est bon. T'es bon.
Ils sont là, non?
T'es bon. Tu te prends pas la tête, t'es bien. Ah là, ils te rattrapent, hein. Fais attention. Hein.
C'est bon, je.
Ah, ils courent vite, hein.
Ouais, ils essayent.
Ah, ça, je crois que ce sont des cavaleries keshiks. Ça va ça? Nous les
écraserons ici. Et voilà, et là on y va.
Magnifique. Allez, on tape.
Hein?
Et ramène le gros de ton armée là. Avec les onagres.
Tout là?
Tout, envoie tout. R clic dans tous les sens. Les arbalétriers, même les escopétiers là, R clic partout. Je peux même les mettre sur la hauteur, ils auront un avantage de puissance sur la hauteur.
Ça arrive.
Ah, c'est un carnage.
T'as vu?
Oh, le piège.
Le piège s'est refermé.
Oh, c'est large. Hein. Il y a une autre vague.
Quoi, une autre vague de quoi?
Eh ben, il y en a d'autres qui arrivent.
Oula.
Oula vache.
Mais c'est où ça aussi?
Oh, le monde. Attends, et regarde tout à droite. Tout à droite de la carte. Tu peux cliquer sur. Ouais. Ah ouais.
Ouais.
Ah, j'ai...
Oui, il y a,
ouais, y a du monde. Hein.
Bon, là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça,
ah, c'est la fête. Hein.
C'est bon là.
C'est bon, mais faut retourner les chercher les autres.
On y va, on y va. Là, faut que je fasse des groupes là.
Mais là, 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 les tu vois, regarde, t'as que des unités de tir.
Ouais.
Qui arrivent là. Ah non. Ça.
Quoi, dis-moi.
Tu as désélectionné le groupe de tir. Regarde au-dessus.
Oui.
Eh ben, toutes les onagres, tu les mets là-haut là.
Ça, c'est quoi ça?
Toutes les catapultes, tu double-cliques sur une catapulte.
Voilà.
Voilà, et tu les mets toutes là-haut là.
Ici.
Comme ça, position de hauteur, d'accord, pourront pas être atteints par les cavaliers.
Mais on est d'accord qu'il faut que je les fasse revenir à moi en fait. Faut que je les titille encore, c'est ça?
Pourquoi ils viennent pas?
On va prendre des.
Attends, reclique sur tes onagres. Oh. Et fais-les venir là. Ah, mais si, ils ont l'air de venir. Hein.
C'est bon, c'est bon.
Ah voilà.
Allez, venez les onagres. Onagres, c'est ça?
C'est, alors je crois que c'est ou des mangonaux, des catapultes. Alors là pour le coup les termes varient.
Ok.
Mais je crois que c'est des onagres de siège.
Bon, là normalement c'est bon hein. Ok, c'est parti. Moi je vais prendre.
Et t'as des canonniers, des arbalétriers que tu pourrais aussi poster
ils
sur
sont,
les hauteurs.
Ils sont où les canonniers?
Canonniers t'en as au milieu là. Tu double cliques.
Là?
Non, c'est ceux-là là.
Ça?
Non, c'est bleu. Ça voilà, c'est là.
Ça?
Non, c'est ces cavaliers ça.
Là là. Bon là attends, c'est parti.
C'est pas grave, c'est pas grave.
C'est parti.
Oh, regarde les onagres, elles sont trop loin. Ah ouais, mais le sultan il avance trop ses troupes aussi. Oh, c'est un carnage.
Mais ils tirent pas les onagres,
ils sont trop loin. Faut les ramener, faut les mettre en bas, je pense.
Ah, dommage.
Mets-les là les onagres. Dis-leur d'aller là. Mais pas.
Si, si, t'écoute.
Si tu mets les onagres ici, t'es bien.
Ok, ouais. Ok, let's go. Elles sont là.
Elles arrivent. T'en as qu'une seule de sélectionner là.
Ah bon?
Non encore. Non. Voilà, c'est bien. Oh là là, là le piège là c'est bon hein. Il y a une dernière vague, c'est la plus grosse.
Alors, attends, faut vite que tout le monde vienne là.
Non. Ouais, mets-les sur les hauteurs les archers aussi là. Voilà. Non, là t'es au milieu avec l'onagre.
On est bien. Non, elles viennent, elles arrivent. On est bien là. Mais attends, mais ils ont rien à faire là ici.
Si, c'est des archers de cavalerie, ils vont bénéficier
c'est
des bonus en hauteur.
C'est bien.
Ouais, ouais, je crois bien.
Là, j'ai mon armée qui est un peu paquée, c'est pas mal. J'ai laissé personne derrière, je vérifie quand même, je check.
Peut-être à l'orée de ta ville.
Il n'y a pas des déserteurs, tu vois.
Enfin, à la bordure de ta ville, je crois que. À droite. Regarde à droite en bas de ta ville. À droite.
Tout en bas là.
Ouais, non, c'est des bâtiments.
Bon, je crois que c'est bon. Ah,
ah bon,
bien vu.
Eh oui, ils mangeaient des pommes là. Ils les déserteurs là.
Attends, il y en a pas mal.
Non, t'es bon là. Attention, ça arrive. La bagarre. Regarde les onagres. Oh, les onagres, ça va être incroyable. En bas. Non, c'est du vert, c'est pas à toi. Rapproche les onagres du bord. Oh, mais en fait, ils sont. Ah, tu veux rigoler? Clique sur les onagres. Attends, les onagres.
Voilà.
Double clic.
Ouais.
Voilà. Appuie sur ça.
Ça?
Ce bouton là.
Celui-là?
Non,
celui-là.
Ouais. Et clique là maintenant.
Là?
Ouais. Paf!
Mais non, mais ils font rien du tout là.
Si, ils ont tiré.
Ouais, mais pas du
tout. Ah, tu tues tes unités, Sam, qu'est-ce que tu fais?
Mais non, mais c'est toi qui fais ça. Il est fou, il est
mais
fou.
Mais ça va pas, t'en as encore tué.
Il est fou.
Au moins, t'as vu comment elle marchait.
Mais oui, mais en fait, tu les as positionnés trop loin, je suis désolé. mais ce coaching de dingue, ça ne va pas du tout. Hein.
Attention, faut que t'arrêtes de tirer.
Mais c'est toi qui fais ça. Il est fou.
Mais non, mais bon.
C'est quoi ce coaching?
C'est un. Moi, je mets des petites difficultés en plus.
On a gagné?
Et ouais, ça y est.
Une grande victoire qui résonnera à travers les âges.
Bah, je crois que vu la voix du gars, c'est gagné. Là.
Heureusement, je suis au Louvre parce que je serais chez moi, je relancerai la campagne sans arrêt.
Bah, en difficulté supplémentaire.
Le chat, vous en avez pensé quoi?
Là, c'était très accessible.
Attends, on va voir ce que dit le chat. Ça va se moquer, ça. Ça micromanage direct. Ça,
ah, bien
c'est
sûr.
Quand tu m'as fait tirer ça.
Je te micromanage fort.
Les gens ont salué ta micro. Hein.
C'est vrai?
T'avais une très jolie micro. Très jolie AirClick. Moi, je suis content de t'avoir appris le AirClick.
Le chat, incroyable, bravo Samuel. Très accessible, c'était cool. Bon. Grand chef de guerre.
Grand chef de guerre. Hein.
Bon, ça va.
Ah non.
Bon. Ce qui sera... Tu sais ce que je vais faire cette nuit en rentrant là?
Ah oui, tu vas relancer?
Demain, je vais relancer en mode un petit peu plus difficile.
Ah, hâte d'avoir les retours.
C'est à toi.
Ah, j'enchaîne direct?
Bah oui,
sur le 4.
On va au 4 là.
Ah, attention.
Fruit de la collaboration entre le musée du Louvre et Age of Empires.
Je peux faire un Alt-F4 sinon.
Découvrez l'histoire de l'Empire Mamelouk et de ses guerriers légendaires dans l'exposition Mamelouk 1250-1517 jusqu'au 28 juillet au musée du Louvre.
Et donc,
pour en savoir plus, veuillez visiter www.ageofempires.com/le-louvre. Si vous souhaitez découvrir davantage d'informations sur l'exposition, une interview croisée passionnante entre l'équipe du musée du Louvre et le directeur créatif du studio, et bien plus encore.
Et ça, c'est le lien que Joe vous a épinglé à plusieurs reprises ce soir, c'est la même chose. Un petit Alt F4 à l'ancienne.
Yes.
Hop, voilà. Et donc, cette bataille, elle a vraiment eu lieu, et c'est vraiment passé comme ça, avec une stratégie pour les attirer dans la plaine.
Ouais. Le piège pour attirer.
Alors, ça n'a pas pris le Alt F4, mais tu peux quitter normalement.
Ok,
oui,
bon.
Oui, le retour.
Le kit, on quitte classiquement.
Quitter.
Voilà.
Bam.
Alors, le 4.
Eh ben, le 4 est juste en dessous, à gauche. À gauche.
L'autre gauche.
L'autre gauche. Encore plus l'autre gauche.
Ah, c'est celui-là, bon. Là. C'est écrit tout petit aussi, les gars.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave.
C'est le jeu.
En plus, il vient de donner tout.
C'est quoi cet écran de 12 pouces, là aussi?
Depuis que t'as des 24 pouces, t'as changé.
Il y a des goûts de luxe.
Je suis passé en 240 Hz à la maison.
Oh,
je peux dire ça.
C'est pour Valorant, ça. Pour mettre des têtes, c'est ça, bien sûr.
Ça marche pas trop, mais.
T'as pris du level depuis là.
Je suis en 240 Hz, j'ai fait des deathmatch cet après-midi en cachette.
Mais tu sais, c'est terrible parce que...
Hors stream.
C'est terrible, c'est parce que si t'es pas meilleur au jeu, après être passé en 240, tu peux plus blâmer le matériel.
Comu va encore plus se moquer.
Ah, il peut encore passer en 360.
J'ai fait des deathmatch cachés cet après-midi pour voir. Ouais. Pas mal, c'est pas mal. C'était pas mal.
Ah ouais. C'était mieux ou...
C'était mieux. Il y a un truc qui vient. Enfin, ça fait 2 ans que je dis ça.
D'accord.
Mesdames et messieurs, la même bataille historique, mais en Age of Empires 4.
Tout à fait.
Voilà. Et cette fois, c'est Alpha qui prend la souris.
Exactement.
Je vais te coacher. Hein.
Tu vas me coacher. Bah écoute, moi je suis ton coaching, il n'y a pas de problème. On peut suivre le coaching. La difficulté. Parce que moi, je l'avais fait en intermédiaire et j'avais perdu. Donc, elle est vraiment dure, la mission.
Pourquoi il y a un mode facile et un mode histoire? Le mode histoire,
c'est pour les novices qui souhaitent pleinement profiter de la campagne et apprendre à jouer sans trop de pression lors des combats. Samuel,
t'avais perdu en intermédiaire?
Oui, j'avais perdu en intermédiaire.
Impossible.
Non, mais elle est vraiment difficile parce que t'as des vagues, donc c'est un peu comme celle que tu viens de jouer.
T'es nul.
C'est quoi? Je vais le voir en intermédiaire. Tu vas voir. Je vais la lancer en intermédiaire.
Ça, c'est chaud. T'avais perdu en intermédiaire? Putain, je suis bluffé. Donc la bataille est vraiment dure.
Écoute,
un nouveau pouvoir se forma.
Ah là, on a une belle cinématique.
Sous la bannière des anciens esclaves, le sultanat des Mamelouks était né.
Ah, c'est génial.
Les ravages des Francs, aussi atroces soient-ils, ne pouvaient égaler la terreur que nous avons ressentie face à la violence et la fureur des Mongols.
C'est vrai.
Aussi vite que se répand la peste, ils arrivèrent. Les uns après les autres, nous sommes tombés. Bagdad, Alep, Damas. Nos terres étaient englouties sous la fumée et recouvertes de sang. Toutefois, le sultan Qutuz, que Dieu lui soit miséricordieux, ne voulait pas reculer devant la peur. Il rassembla son armée de Mamelouks et se mit en marche.
Ça met dans le mood, hein. Ça met bien là. Ça.
Tu te rends compte qu'on joue sur cette bataille au Louvre, à quelques mètres d'une exposition qui parle de tout ça?
Ah ouais, non, mais c'est.
C'est classe.
C'est ça.
C'est classe.
C'est la magie de Twitch. Hein,
c'est classe. Alors.
Baybar
à ses côtés, donc on a vu tout à l'heure.
Et oui, le même. Hein, le même. Donc on est sur Age of Empires 4. Donc vous allez voir, le jeu visuellement est.
Mais j'ai l'impression que cette fois, t'es plus côté du sultan Qutuz. Alors tout à l'heure, on était plutôt côté Baybar, j'ai l'impression.
Peut-être que là, l'idée, c'est d'imaginer que le joueur est dans la peau de Qutuz ici.
Ouais.
C'est parti.
Il était écrit que chaque lieu que les Mongols attaquaient, ils le prenaient. Que chaque armée qu'ils combattaient, ils la vainquaient.
Ils étaient des civils, là.
Ah bah oui.
Telle était l'angoisse du peuple.
Ouais. Mais là, on a des mangoudaïs.
Les Mamelouks ne serait pas balayé si facilement. Avant le coucher du soleil, les Mongols connaîtraient le goût de la défaite.
Hop. Ok. Maintenez vos archers de cavalerie en vie. Donc on est parti, on a Baybar. Donc non, on contrôle Baybar encore une fois.
Ouais.
On est sur des archers de cavalerie ici.
Baybar, le
nom de l'unité,
de
c'est archer de cavalerie turc
ordonna sa cavalerie d'attirer les Mongols dans le piège des Mamelouks.
Ok, donc là, je dois d'abord affaiblir l'avant-garde. Donc on n'est pas encore sur...
sur la grande bataille.
On n'est pas encore sur le gros de l'armée. Là, on est sur l'avant-garde.
Les Mongols s'élancèrent dans la vallée sans se douter du désastre qui les attendait.
Et j'ai une capacité qui s'appelle barrage implacable. Les archers de cavalerie à proximité gagnent un barrage implacable pendant 12 secondes. Ils attaquent 100% plus vite et ralentissent la vitesse de déplacement de l'ennemi.
Comment tu l'actives cette capacité? Elle est automatique?
Non, faut que je l'active avec le bouton A. Donc ça, c'est une capacité qui est vraiment typique de la mission. Donc c'est parti. On va faire une formation un peu dispersée.
Ah la vache, attends, tu peux modifier la formation de...
Ah tout à fait, je peux faire une formation en ligne aussi.
La classe.
Hop. Je fais un groupe aussi, t'as vu?
Toi aussi tu sais faire des groupes?
Je sais faire des groupes aussi, j'aime bien. On a même un bouton, nous, dans Age of Empires 4 qui permet de sélectionner toutes les unités militaires. Toutes.
Ça c'est pratique.
Ça c'est pratique.
Ça c'est pratique, ça.
Allez hop. On active la capacité. Et donc là, il faut faire ce qu'on appelle des tactiques de hit and run.
Petit repli comme ça, là.
C'est ça, on tire, on replie, on tire, on replie. C'est vraiment pour affaiblir sans prendre de dégâts quand on a une arme à distance. Alors là, on voit, on est vraiment dans cette vallée et ils sont partout, ils pillent partout. Il faut qu'on arrive à défendre en même temps. Je vais enlever la formation en ligne parce que c'est un peu moins pratique à manœuvrer. Là, je vois qu'on a des cavaliers vétérans sur la colline.
Tu veux aller chercher ?
On va les attaquer. Donc là, j'ai éliminé 15 Mongols.
On me dit que dans le 2, maintenant, il y a aussi le bouton pour choper toutes les armées. Ça m'intéresse.
Ah !
Ça m'intéresse.
C'est pas ça. J'aime beaucoup le son aussi dans le 4.
Comment tu vas le jouer, là ? Pareil ?
Là, on va faire pareil. Et là, pareil. Voilà. On essaye de vraiment les affaiblir. Mais le problème, c'est que c'est quand même des cavaliers. Donc
vétérans.
Ils sont plus solides quand même que les...
que les éclaireurs.
Que les éclaireurs, les infanteries. Mais là, bon, on a quand même beaucoup d'archers. Compliqué pour eux de résister. Vraiment, on les harcèle constamment.
C'est beau.
Oh, faut pas que je perde de troupes quand même. Parce que je n'ai que eux, je peux pas en... Là, j'ai pas de base là à contrôler.
Ah oui, c'est vraiment un pré-épisode en fait.
Ouais, Afula, donc, qui est la ville en bas. Là, regarde, ils sont en train de piller les fermes, là, c'est terrible. Ah bah là, on a...
Heureusement que tu es là. Et encore des cavaliers là.
Et oui, on a vraiment
costauds, ils sont costauds. Hein. Ah, tu peux pas y aller en frontal là.
Non, je suis vraiment obligé de constamment les harceler. Et puis, en fait, ils représentent bien le fait qu'on est en infériorité numérique. Oh, je vais me faire prendre en tenaille.
Et la capacité, tu peux pas l'évoquer non-stop.
Non, tu vois, elle a un temps de rechargement de, je dirais, une minute à peu près.
Okay.
Donc je peux pas le spammer. C'est pas évident. Hein. Voilà, il y a les renforts qui arrivent bientôt. Faut que je maintienne mes archers de cavalerie. Ah, il y a des troupes à pied qui seront plus faciles à embêter, vu qu'ils pourront pas me rattraper.
Excellent.
Ils ont moins d'avantages. Mais c'est des lanciers, hein, donc le moindre lancier qui arrive au contact de mes cavaliers, bah forcément, hein, quand t'es équipé d'une vouge, d'une lance, ça te donne un énorme avantage sur des cavaliers. Puisque tu peux atteindre le cavalier, voire... Oh non, j'ai perdu un cavalier!
Ouais.
Voilà, je suis en train de dire à quel point c'est plus facile contre les lanciers, je perds un cavalier.
Un seul.
Mais j'ai quand même pas énormément de portée, vraiment, forcément.
Tourne autour, quoi.
T'as déjà essayé de tirer un arc en étant à cheval, Samuel?
Non.
Et bah c'est très dur.
Ouh, t'as un deuxième groupe qui arrive sur toi.
Ah, non,
fais gaffe.
Ouais, on va reculer. Difficile, il y a les renforts dans 23 secondes. Ah, quand je te disais qu'elle était plus dure la mission dans le 4.
Ah oui, c'est clair.
C'est plus rude.
Je pense que je serais déjà plus sur la carte.
Bah si tu t'occupes pas de tes cavaliers, c'est fini.
On me demande si tu préfères le 2 ou le 4, toi, Alpha.
Moi, j'ai une préférence aujourd'hui pour le 4 parce que en fait, je le trouve très accessible et puis il a un côté spectacle qui est vraiment incroyable. Quand t'as des grandes armées, des canons, de la cavalerie, je trouve qu'il est fluide. Il est vraiment fluide.
C'est bon, t'as les renforts, bravo.
Ouais. J'aime vraiment beaucoup le 4. Je trouve qu'ils ont des idées de créativité très intéressantes. Notamment, ils ont ajouté récemment les chevaliers templiers. Et c'est un système de commanderie de templiers avec différentes civilisations. En fait, tu viens chercher des unités parmi les différents royaumes qui étaient avec les templiers à l'époque. Et ils ont vraiment fait ils se sont renseignés sur le côté historique de manière vraiment, vraiment cool. Donc moi, c'est devenu très vite ma faction préférée. Et d'ailleurs, on en affronte pendant cette partie. Des Templiers.
Ah oui?
Eh ben oui, il y a les croisés. Il y a les francs à côté. Ah!
Voilà tes renforts.
C'est bon, j'ai mes renforts. Voilà, c'est bien. Alors là, c'est des cavaliers vétérans. Donc là, on est sur de la cavalerie classique. parfaite pour aller harceler les archers. Et là, on est sur des lanciers. Donc les lanciers pour gérer la cavalerie, les archers pour gérer les archers de cavalerie. Et là, on a quand même un gros flanc. Hop.
Voilà. C'est bien avec tes archers derrière. Hein.
Ouais. Alors là, le problème, c'est que j'aimerais bien qu'on gagne du temps. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué.
Il faut vraiment être sur tous les flancs à la fois.
Ouais, là c'est complexe. Ouais.
Là aussi, tu passes par le R ou pas?
Ouais, 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 un peu. Si, je suis en full R là. Oh là là là, là c'est S, c'est chou. Oh les amis!
Ils sont vifs, hein?
Ils sont très vifs. Parce que là, on est sur de la milice. Hein.
Attention, parce que là, tu as des siècles d'histoire qui te contemplent ici. Hein.
Je vois ça, là, je vois ça, faut pas que. Là, faut que je fasse attention. Je vais envoyer la cavalerie sur les archers parce que, évidemment, la cavalerie sur les archers, c'est ce qui est recommandé. Ça devrait aller parce que les archers au corps à corps, bah forcément la cavalerie aura un bel avantage. Donc là, ils ont vraiment mis un gros accent sur la tactique, hein, sur cet épisode là, sur le 4 par rapport au 2. Les renforts sont arrivés, donc j'ai des renforts.
Cool, cool.
C'est du bien parce que là, c'est dur.
Tu as bien joué, mais tu as perdu quelques
troupes. J'ai perdu beaucoup de troupes quand même. J'ai mes archers, je les mets derrière. On a.
Donc archer derrière, ouais, tu mets quoi?
Elle est trop dure cette question, c'est une folie. C'est trop chaud.
Tu mets les lanciers devant,
c'est ça? Perdre encore.
C'est derrière et les cavaliers, tu les mets où?
Les cavaliers, en fait, ils ont des cavaliers lourds. Donc les arbalétriers sont vraiment très adaptés contre les lanciers de cavalerie qui sont de la cavalerie lourde. Les archers de cavalerie.
Ça c'est les archers de cavalerie, ça?
Non, ça c'est les cavaliers.
Les cavaliers.
Ça c'est les archers
de cavalerie. Ah voilà, mais voilà.
Et le truc, c'est que ouais, je vais avoir du mal là quand même. Hein. Je vais les laisser, je vais pas les attaquer tout de suite parce que sinon je vais me faire. Je vais me faire calmer.
C'est chaud, hein. Tu sais quoi, j'aimerais pas être à ta place.
Écoute, ça fait plaisir à entendre. Ok. Bah écoute, force à nous, hein.
Ça va le faire, ça va le faire. T'as tes archers qui font le boulot derrière.
Ouais, ouais, les arbalétriers là, ils font très très mal. Mais là, on se fait fortement enfoncer. Hein. C'est rude, hein. C'est très rude ce qui se passe.
Faut pas qu'ils enfoncent tes arbalétriers là parce que.
Ouais, les arbalétriers font assez mal donc ouais, ça devrait
ouais.
aller.
Ouais, enfin, faut que tu les aides là parce que.
Et Barry est tout seul. Non, ça va aller, y a pas assez de cavaliers sur eux, ils vont tenir. Et heureusement, j'ai quand même des hommes d'armes qui sont très 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 lourdement équipés. Mes hommes d'armes là, ils m'ont sauvé là. Là, ça devrait aller parce qu'ils ont beaucoup d'armure. Donc les hommes d'armes contre les archers sont forts.
Ils ont pu tanker quoi.
C'est ça, les archers sont pas perce-armure, les arbalétriers sont perce-armure. Donc on veut mettre les arbalétriers sur les cibles en armure et les archers sur les cibles peu protégées comme les lanciers. C'est un pierre-feuille-ciseau au final. Bon, j'ai plus rien.
T'as perdu 50% de tes troupes, c'est pas la Bérésina. Hein.
Non, c'est. Si, un petit peu quand même.
Parce que là, tu vas recevoir des renforts de nouveau.
Oui, oui. Il y a ça qui arrive. Ah ben les voilà, les Templiers. Nous avons le grand maître de l'ordre des hospitaliers.
Ils ont l'air costauds, non?
Oui, ils sont costauds, les Templiers. Attends. Bah là, on a des chevaliers teutoniques, là. Une des meilleures infanteries du jeu. Et on a le grand maître.
Mais ils sont beaucoup!
Ils sont beaucoup, 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 les chevaliers teutoniques.
Mais t'as quoi, toi? Il faut qu'ils te donnent des gens.
C'est
là,
bon, c'est bon, ils m'ont donné des gens.
Ça ne va pas du tout, là.
Ouais, ils m'ont donné ça, là, vraiment.
C'est léger, hein.
Non, mais là, j'ai juste que des archers de cavalerie, là.
Mais qu'est-ce que c'est au niveau expert?
Ah, j'avoue. Quelque chose au niveau expert. Hein. J'ai pas. Allez, c'est pas cool, hein. Il y a que de la cavalerie lourde.
Ouais.
Il y a quelques arbalétriers. Donc les arbalétriers, on va s'en occuper avec les archers de cavalerie.
Faut que tu bloques la cavalerie lourde, là, et que tes archers fassent le boulot, quoi.
Ouais,
mais
ouais.
Ça va être chaud,
ouais,
hein.
Ouais, ouais. La cavalerie lourde, on va la bloquer sur ce flanc.
Mais tu peux pas réduire le... Créer une espèce de goulet pour que...
On va essayer.
Cette année-là, les Francs forgèrent une alliance maudite avec les Mongols. Que Dieu les abandonne. Mais les Mamelouks ne reculaient pas devant ces bêtes infidèles, qu'importe leur seigneur ou leur bannière.
C'est parti.
Ok. C'est chaud. C'est chaud, mais on tient. On tient difficilement. En fait, le problème, c'est que c'est vraiment des chevaliers extrêmement résistants niveau armure.
T'as vu, qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'en vont? Ils reviennent?
On se fait défoncer là. C'est dur là. Allez, grand maître templier, là, ils tiennent.
Bon, j'y crois encore, j'y crois encore.
J'y crois pas trop là.
Les habitants donnèrent l'alerte. Ils étaient acculés par l'ennemi. La défaite approchait.
Je vois pas comment j'y vais là. 2 sur 5 les vagues. Samuel, je vais perdre encore. Hein. J'aurais dû lancer en facile. Hein. J'aurais dû lancer en mode histoire. Hein.
Non, c'est de ma faute.
C'est dur de fou. C'est trop dur. Et comment je fais en fait?
Renfort dans une minute.
Ouais, ouais.
17 secondes.
Une minute, c'est bon, ça va le faire, les gars.
C'est bon, tu tiens 15 secondes.
Les villageois tankent.
Oui, c'est les villageois qui prennent.
Les villageois tankent.
Ah ouais, c'est bon, c'est pas grave, pas grave.
C'est trop dur.
Non, mais à un moment, les villageois, ils doivent aussi faire des trucs.
L'histoire me regarde. Je vais perdre au Louvre. Je vais perdre au jeu vidéo au Louvre. Samuel, il est meilleur que moi au jeu. Allez, renfort.
Ouf.
C'est quoi, c'est tout? Hein? Il y a des archers.
Et non. Ah, t'as un petit groupe à droite là? Enfin, non, t'as un gros groupe en fait.
Oui, oui, j'ai vu. Merci, merci Samuel.
Mais ils sont. Comment ça, le premier joueur à perdre au Louvre? Vous pouvez pas dire ça, Silver Python?
Moi, hein. Et le joueur restant. Même mon chef, il est mort. Bon, non, mais le problème, c'est les chevaliers teutoniques, quoi. C'est un enfer. Mais c'est pour ça, moi, je joue cette civilisation. Ils sont plus
très
forts.
Fort.
Ils sont plus forts.
Attends, ils prennent cher là avec tes archers.
Non, non, ça va.
C'est bon, c'est bon. Les villageois, ils peuvent pas donner un coup de main, tu peux pas les armer. Il y a pas une espèce de.
C'est pas leur travail.
À un moment, tu sais, faut ce qu'il faut.
Bah,
il y a pas de. Tu donnes des poils, des casseroles.
Des poils et casseroles contre les armures, ça va être bien. Ouais. 1 minute 23 là.
Ah, là, fort. Mais c'est plus des chevaliers.
Non.
Tu
si,
vois
si, 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 il hein, y a des lanciers de cavalerie.
Oui,
hein.
Mais c'est pas des chevaliers.
Y a des lanciers. Ah, ça en fait des choses, hein. Ça en fait du monde.
Quoi, teutonique,
hein.
C'est ça?
Ouais, ouais.
C'était pas une danse à l'époque, ça?
Mais non, mais laissez mes. Oh là là, les chevaliers teutoniques. Là, non. T'as vraiment fait une fin de chevaliers teutoniques.
Désolé.
Il a osé.
Alors, je me dis qu'au Louvre, fallait que je la fasse.
Ah ouais, ouais, non, mais en vrai, c'est bien tenté, hein.
Alors, ça va. Allez.
Je crois que je vais essayer de.
Qu'est-ce qu'ils font, tes azous derrière, là?
Non, mais moi, je les gère un par un, les gens, là. Je les gère un par un, d'accord. Oh là là. Non mais oh, hey. Les villageois, ils vont donner leur vie pour me le gagner, faire gagner du temps, d'accord.
Ok, ok, on a compris la strat.
La strat de pleutre.
C'est bon, tu leur fais mal.
Non, non, c'est pas bon, là, j'envoie mes cavaliers dans les lanciers. Villageois attaqués, oui, bah écoutez, chacun ses problèmes, hein.
Dans 24 secondes d'aller renfort.
24 secondes, hein, 24 secondes,
c'est... Oula, par contre,
Ouais.
Petit groupe, là.
Ouais. C'est la fin là. Hein.
Non, faut que tu gagnes du temps, faut. Ouais.
Allez, hein.
Tu gagnes du temps là. Va te promener un coup là.
Force à nous.
Ouais, va te promener un coup là en vrai.
On
là.
Va se promener un peu. Hein.
8 secondes avant les renforts.
On est censé les attirer quelque part. Là, on les a attirés chez nous directement. Ça va pas du tout.
Cours, Forest.
Ça se passe extrêmement mal, ça fait.
Pourquoi t'as perdu? Il t'en restait 4-5 devant.
Bah, y'a peut-être plus de villageois à protéger.
Ah. Tu penses que c'est la mort des villageois?
Donc là, moi, tu vois, j'ai choisi de perdre pour montrer à quel point, à l'époque, l'esprit stratégique des généraux était incroyable. Tu vois?
Bah, moi, tu l'as bien fait.
Tu vois?
J'ai bien vu.
Moi, je suis pas un général de base, tu vois.
Vache.
Non, mais c'est dur de fou.
Et en niveau intermédiaire?
Mais on n'a pas le temps de recommencer là.
Mais il est. Attends, je regarde le conducteur.
Je relance en histoire.
Joe, on n'a pas le temps de relancer.
Je sais pas lequel fonctionne. Il est
22h. Non.
Il est 22h, je pense que si on est cool, on peut refaire une petite 20 minutes.
Ah,
allez, en mode histoire.
Tu l'as vraiment mis en mode histoire?
Ouais.
Mode facile,
ouais.
Même mode facile.
Mais non, mais pour montrer comment...
Mais en mode facile.
Ah, t'as quand même... Même en mode facile, j'ai peur.
Non, même mode facile, Alpha, tu peux le faire.
Non, mais mode
moi, je
facile...
Crois en toi. Non, mais pas en mode histoire, les gens vont se moquer de toi.
Non, mais si je
les gens,
mode
les gens dans les livres d'histoire, ils vont dire, oui, Alpha, le mec qui s'est mis en mode histoire... Alors qu'il joue aux jeux vidéo depuis...
Mais on est au Louvre, je me mets en mode histoire.
T'avais quel âge quand t'as découvert ce jeu?
Celui-ci, je devais avoir 30 ans et quelques.
Edge of Empires, t'y joues depuis...
Edge of Empires 4, j'avais 30 ans et quelques.
Oui, 4, mais bon. Hein, Alpha ne nous fait pas honte.
Non, mais par contre, dans le chat...
T'as mis mode, quoi.
On est d'accord, j'ai mis mode facile, pas histoire.
Comme moi.
Non, mais dans le chat, on est d'accord pour dire que c'est hyper chaud.
Moi, j'ai gagné en mode facile.
Oui, ok, d'accord, bon, ça marche. Tu deviens désagréable.
Non, c'est pour te charrier. Genre, objectivement, moi je serais mort.
Désagréable.
Je serais mort en 15 secondes. Le
héros de non, mais en fait, c'est
vraiment très, très dur.
C'est très dur parce qu'il t'envoie des packs et t'es là. En fait, si tu fais très attention au micro-management de ton unité, ça peut passer, mais même, c'est dur de fou, hein, je trouve. Hein. Ils t'envoient tellement de troupes.
Il n'y a pas un monde où tu peux un peu les harceler comme tu l'as fait tout à l'heure.
Bah, en fait, le problème, c'est que à peine tu te relèves de la première vague, t'en as une derrière.
Et il n'y a pas le choix au niveau du choix des unités, t'étais top.
J'ai pas le choix.
Non, mais des unités que tu mets au.
Ah, que je mets au contact. Bah, peut-être que c'est certainement améliorable, bien sûr, Samuel. Mais je fais ce que je peux, moi aussi. Hein, tu sais, je suis pas un joueur pro. Hein. Moi, je suis un commentateur. Hein. C'est fini, hein, l'époque où je jouais bien aux jeux vidéo, moi. Hein. Moi, j'ai compris le truc. Hein. Allez.
C'est très beau ce que je vois là.
Oui, bah on. Là.
Les Mamelouks terrassèrent la première vague de Mongols avec une rapidité
déconcertante. Pour l'instant, on est raccord avec l'histoire.
Bien sûr, avec une rapidité déconcertante, il s'est mis en mode facile. J'explique aux gars là.
C'est vrai, en mode standard, t'as gagné et moi je perds en mode standard. Hein. Techniquement. Non, mais moi je vous mets au défi de la compléter au premier coup, cette mission, en standard. Si vous êtes joueur d'Age of Empires 4.
C'est vrai, il y a Plisken dans le chat qui dit c'est Alpha Cast, c'est pas Alpha Play.
Eh ben exactement.
C'est vrai.
Exactement. Ah ouais. Non mais c'est bon là, c'est pas sport ce que vous faites là. Ça c'est, il faut arrêter, les villageois faut le laisser tranquille. Alors je me demande ce que fait le mode facile, si juste il y a moins de troupes ou... Imagine si je perds encore. Imagine je perds encore, Samuel.
Je pense que tu crées plus de dégâts sans doute, non?
Je pense que j'arrête de streamer. Hein. Du Age of. Je passe vraiment non, commentateur à plein temps.
Tu sais, t'es pas sous ton setup. C'est pas tes réglages.
Je suis pas en 240 Hz.
Ah, c'est pas tes réglages, c'est pas ton écran, ça. C'est pas ta souris, c'est pas ton tapis.
C'est vrai.
Y a ça aussi, ça joue, hein, tu sais, à ce niveau-là.
Il y a tout ça.
Je sais ça. Oh, Marine Lord.
Ah, Marine Lord.
Ouais, très beau raid de Marine Lord à l'instant. Merci.
Merci, Marine Lord. Marine Lord. Je serais curieux de savoir si t'as réussi à faire cette mission en standard.
Ah, la mission sur Age of Empires 4.
Et comment tu l'as trouvée?
Parce que Alpha l'a faite en difficile.
En standard.
Oh non, la première fois tu l'as faite en difficile.
Intermédiaire, pardon.
Intermédiaire et il a pas réussi.
Je me fais tuer à la vague 2.
Merci Marine Lord.
À la vague 2 quand même. Hein.
Bienvenue au Louvre, j'ai toujours rêvé de dire ça.
Ah oui.
Bienvenue au Louvre les amis.
Et hop.
Honnêtement, j'ai fait ni la campagne ni aucune mission, me dit Marine Lord.
Non mais essaye là, je suis curieux d'avoir ton ressenti. Juste pour, j'ai juste besoin que tu me dises, j'ai essayé bro, j'avoue, impossible.
Alors j'explique à ceux qui nous rejoignent ce qu'on fait, on est au Louvre.
Exactement.
Voilà, pour une magnifique exposition qui est là jusqu'au 28 juillet sur la dynastie, la civilisation au Mamelouk. Voilà. On s'est promené grâce à l'une des commissaires de l'exposition avec Alpha dans l'exposition, on vous a montré une partie. Voilà. On a échangé avec Frédéric, un des devs du jeu aussi, sur comment il avait travaillé. Et puis là, avec Alpha, on a joué à Age of Empires 2 avec, sur cette célèbre bataille là. Et on l'a refait également sur Age of Empires 4.
Exactement.
Voilà. C'est la bataille d'Ain Jalou.
Ain Jalou, exactement. Qui, voilà, qui est corsé. Faut dire les choses. C'est corsé. Mais en même temps, la situation était désespérée à l'époque. Donc ils ont représenté ça aussi. Hein.
Est-ce que vous êtes dans le cercle du début et où on trouve le magnifique vase? Oui, exactement, oui. Enfin, pour le coup, c'est pas un vase, c'est un bathysphère. C'est le bathysphère qui était donc un objet de l'art mamelouk et qui, d'une manière qu'on ne connaît pas aujourd'hui, est arrivé en France et a servi au baptême de certains rois de France. Donc en détournant un peu son usage. Quoi. En revanche, il y a des vases ici, des vases en verre incroyables. Dorés, enfin, qui sont d'une toute beauté. Quoi. Moi, je vous invite vraiment à venir voir ça. Parce que je suis complètement sous le charme de cette expo. Quoi.
Je pense qu'il faut que j'essaie de les attirer au max.
C'est bien ce que tu fais là. Attention.
Ah mais il y a des archers qui me poursuivent.
Ah, le peuple d'Afula doit survivre.
Et oui.
C'est pour ça que t'as
c'est
pas.
C'est pour ça que j'ai perdu, exactement. Hop. Hop, on essaie de se débarrasser de la milice.
Très bien ça. Tu vas pas les harceler les petits sur le sentier là-haut là.
Bah c'est ce que, en fait j'en harcèle plein à chaque fois. Hop. On se débarrasse des archers notamment. Et les archers, le problème tu vois, c'est que si je commence à m'amuser à les embêter avec eux, je vais prendre des flèches.
Ouais.
Et vous avez reçu un raid de Marine Lord.
Oui, on l'a remercié, Joe.
Marine Lord.
On a échangé avec lui.
Adorable.
Merci, Joe. ils sont énervés.
Oui, oui, c'est le mot. Hop, on va s'occuper de ces archers rapidement. Voilà, là, mes lanciers font un travail exemplaire.
Là, tu y vas, voilà, pour pas leur laisser le temps de c'est pas mal ça.
On est
bien. Tirer leurs flèches. Même sur ce petit groupe là.
Je prends les dégâts gratuitement là.
Là, t'as utilisé tes capacités là.
Exactement.
Très bien ça.
Faut que je recule avec eux. On va aller sur les archers. On va pas les laisser trop nous embêter, nos archers. Ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4. Ok.
Et le message de Je révise dans le chat, c'est incroyable de voir le jeu vidéo prendre place dans un musée. Et quel musée, ça fait tellement plaisir d'enfin le voir comme un véritable objet culturel.
Et oui.
Au service de l'histoire et des autres apprentissages, évidemment. C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Et bravo encore au Louvre, parce que c'est le Louvre qui a eu l'idée de ce stream où on fait se rencontrer l'art, l'histoire et le jeu vidéo. Bravo à eux.
Exactement. Alors là, il y a des miliciens là-bas. Là, j'ai des arbalétriers. Les arbalétriers, il faut qu'ils gèrent la cavalerie lourde. Et j'ai aussi des épéistes. Les épéistes, ils seront parfaits pour gérer les archers en combinaison avec ma cavalerie.
Il y a un message de Yann Moix dans le chat qui dit « J'ai toujours dit que le jeu vidéo était un art à part entière. » Voilà.
Ah bah, c'est, alors là.
Et que tous les joueurs de jeux vidéo depuis 25 ans devraient être médaillés. Je sais pas qui est ce Yann Moix, mais
carrément.
Il a l'air passionné.
On va loin.
Le jeu vidéo, ouais.
On va loin. Et il parle des créateurs de jeux vidéo ou des joueurs?
Bah, je crois que c'est pas de tout le monde. Je crois que c'est vraiment un amoureux du jeu vidéo.
Des joueurs.
Yann Moix. Je sais pas qui c'est.
Ok. Donc là, ça y est.
Voilà.
Là, c'est la grosse baston. On flanque. Tout le monde se bat, tout le monde se tabasse. C'est un grand moment de liesse.
Un petit groupe d'archers là qui fait mal.
Ouais, un groupe d'archers qui fait très mal. Ils en ont beaucoup, mais j'ai ma cavalerie dessus ainsi que des hommes d'armes. Donc les hommes d'armes font un bon travail. Ainsi que mes archers sur la milice. La milice est mal protégée. Hein. Je crois qu'ils ont peu d'armure. Enfin, ils ont zéro d'armure. Donc bon, là globalement on a réussi à
pas
faire.
Mal, pas mal.
Là c'est bien.
En plus, ça les renforce en 39 secondes.
Ouais, là on est.
T'es plus
là,
à l'aise là.
On est. C'est mieux. En effet, c'est plus facile. Hein.
Il y a des prêtres au village, tu peux soigner tes unités. Oh oh.
Ouais, alors il y en a c'est trois. Il y en a trois autour d'un
ça,
feu.
Ça, c'est pas des prêtres ça.
Non, c'est des villageois ça.
Les villageois, ils peuvent.
Il y en a trois autour d'un feu.
Ils peuvent pas te heal un peu là.
On peut essayer, les amis, mais ça va pas aller bien loin. Il y a trois imams autour d'un feu qui font cuire à manger.
Eh ben peut-être que. Hein
non, mais ils vont faire ce qu'ils peuvent. Non mais c'est vrai, techniquement ils sont là, j'ai les renforts dans 13 secondes. Là on est bien, non, on est bien.
Bien.
On a les teutoniques. Attends, ça te fait un truc les teutoniques. Hein.
Bah, ils m'ont vraiment impressionné.
T'aimes la danse quoi.
Bah, du coup moi en rentrant à la maison je me repencher sur l'histoire des chevaliers teutoniques parce que j'avoue que j'ai plus les bases.
Le dernier DLC de Jeff Bears 4 donc propose l'ordre des chevaliers teutoniques à jouer.
De jouer en civilisation.
Les chevaliers templiers. Et donc tu peux les jouer si tu le souhaites. Hop. Donc on a un contingent d'archers de cavalerie qui vient d'arriver. On a des lanciers, les lanciers qui vont être très utiles contre la cavalerie lourde. Le problème c'est que simplement les lanciers contre la cavalerie lourde, ça va pas aller bien loin. Il faut des arbalétriers pour faire l'appui-feu.
Ouais, ouais.
Parce que le lancier en fait va arriver à stopper.
Tu vas faire deux lignes ?
Je vais faire deux lignes, ouais, je pense. Et puis on va charger.
Les lanciers devant et les archers juste derrière.
Ouais, et puis on va charger. Alors je crois que c'est les arbalétriers. Ça va pas être terrible sur mes hommes d'armes, ça. Les hommes d'armes, en fait.
Mais pourquoi tu enfonces pas une aile ?
Ouais, je pense qu'on va plutôt faire ça.
Ouais.
On va plutôt enfoncer une aile, je pense, t'as raison.
T'as fait
un vrai stratège.
Je l'ai raté, Joe. T'as fait une blague, Joe, je l'ai raté.
Les francs forgèrent une alliance maudite avec les Mongols.
Ok.
Que Dieu les abandonne.
Ça arrive.
Mais les
Mamelouks ne reculaient pas devant ces bêtes infidèles. Qu'importe.
Très bien, très bien. Les albatriers se mettent derrière, là. Ça fonctionne.
Allez, hop. On enfonce ce flanc. Oh, ça se passe bien, là. Oh, ça se passe très bien. Oh là là. L'engagement était parfait. Attention, cependant, on va essayer de tenir les chevaliers teutoniques. Ah, tu vois, ils sont très lents avec leurs armures de plaques.
Oui, mais du coup, voilà, là, t'es un peu plus prudent. Tu leur fais très très mal.
Ça se passe bien. C'est incroyable.
Mais ils sont où les chevaliers? Ils sont partis là les...
Les chevaliers?
Ah oui, ils sont partis. Ah, ils sont là.
Ils sont pas dans ma base là, cette fois c'est mieux. C'est interdit dans ma base. Alors là par contre, il y a un gros contingent mongol qui arrive. On est sur la vague 3.
Et il y en a 5?
Il y en a 5.
T'as des renforts dans 23 secondes.
Ouais, faut que je me refasse ma formation là. Petite formation là. Petite formation en ligne.
Lextep, reproduire la bataille en wargame historique. Go rentrer le wargame au Louvre. C'est quoi le wargame?
Alors le wargame, je sais pas si tu connais Warhammer.
Oui.
C'est le wargame.
D'accord,
c'est okay. Donc un jeu, c'est comme un jeu de société, c'est comme des échecs, sauf que les échecs c'est pas ton pion, ta reine, c'est des bataillons, c'est des unités.
C'est un jeu de plateau alors?
C'est un peu comme un jeu de plateau, ouais, c'est ça. Mais vraiment beaucoup plus complexe, avec des décors énormes.
Okay.
Et initialement c'était quelque chose qui était fait pour simuler des batailles historiques, et ça aidait les généraux à prévoir les mouvements des troupes pendant les batailles. C'est né
part,
de ça.
Ça part
en fait.
De là.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Il y a Nota Bene qui a fait une super vidéo là-dessus.
Cool.
Si tu veux savoir exactement ce que c'est, comment c'est né.
Nota Bene qui est un créateur de contenu passionné d'histoire.
Et exactement. Alors là, j'ai plein d'archers. J'ai pas grand-chose pour tenir la ligne. C'est ça qui m'ennuie un peu, tu vois.
Ah ouais.
Là, j'ai pas grand-chose pour tenir. Alors là, on a de la cavalerie lourde, du lancier. Ouf. Je sais où va aller ma cavalerie. Il y a plein d'archers sur ce côté-là.
Ah, voilà.
Hop.
Tu crées un groupe là de cavalerie?
Ouais, ouais, c'est ça. On va mettre le groupe là, la cavalerie là. Là, c'est les arbalétriers. Ouh, les arbalétriers vont avoir du mal à tenir tout seul là par contre. Il faut absolument que. Ouais. Les archers là, les archers.
Tu vas les protéger avec les lanciers, c'est ça?
Ouais, c'est dur là. Là, c'est dur. Alors, on y va direct.
Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, après, ta cavalerie va pouvoir attaquer le
centre. On va enfoncer ce flanc.
C'est déjà le cas, regarde.
Ouais, voilà, là, il y a un autre assaut de cavalerie qui va être rude à gérer. Mais ça devrait le faire. On va envoyer ma cavalerie s'occuper de ces derniers-là. Des arbalétriers font vraiment énormément de dégâts aux armures. Donc les chevaliers là, c'est vraiment. Ah bah en plus! Ah bah bravo les priorités!
T'as vu ce qu'ils font?
Bravo le sens des priorités!
Protège tes villageois parce que sinon tu vas perdre.
Ah c'est terrible.
Tu peux pas perdre deux fois au Louvre.
Ah bah non! Ça suffit là. Allez, t'as vu ça? Ils ont fui. Ils sont lâches.
Ouais, mais ils attaquent tes villageois surtout.
Oui, mais regarde. Hop là. Nickel. Ok, on est bien.
Et là, on a des renforts dans 15 secondes.
Ça va. Ça va, mais. Alors.
Qu'est-ce qu'on a?
Alors, donc, on a des arbalétriers encore. On a des hommes d'armes, donc en armure lourde. Hommes d'armes. On a Kate Boga, le chef.
Kate Boga, le streamer?
Presque. Kate Boga.
Non, j'ai fait la blague cet après-midi.
Mangoudaï vétéran. Allez, Mangoudaï vétéran vont être très pénibles. Ses guerriers et les inspira à poursuivre l'attaque. On a des escopétiers. Alors, la poudre noire.
Ah, de ton côté?
Eh ouais, j'en ai.
C'est bon, ça?
Ça va être pas mal pour gérer les hommes d'armes et les cavaliers. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là, Baybar? Baybar,
Baybar, t'as envoyé ton chef tout seul?
Baybar, il était en explorateur. Il était
en explorateur. Tout seul?
Ouais, t'inquiète, moi, mon chef, il est courageux. Il est très très déterminé. C'est un mamelouk, il a été élevé, tu vois, depuis son enfance à faire des manœuvres.
Le mec, il est parti tout seul devant 600 soldats.
Mais ouais, il a pas peur. Ah là, ils ont des flancs un peu solides. Et je vais devoir compter sur mes arbalétriers encore une fois. On va faire une formation. En fer de lance, ouais, non, ils vont me connecter trop fort. Je crois que je vais pas faire de formation.
Menace à horde dans une dernière charge désespérée.
Koutouz, ah mais il est là, Koutouz. Il est à pied.
Ah,
il a une capacité. Il était proche, gagne 5 d'armure pendant 12 secondes. Oh, c'est incroyable.
Tu veux aller, c'est pas mal ça.
Faut que tout le monde soit au même endroit là.
Putain,
ça arrive.
Fais gaffe.
C'est un carnage. Ça se passe mal. Mais heureusement, j'ai mes escopétiers.
Au centre, ça tient bien. Au centre, ça tient très bien. Ça tient bien. Faut que tu protèges le centre. Que ça vienne pas.
Ça tient. Là, ils perdent du temps. Je leur fais perdre du temps. Ça tient, monsieur. Voilà. La cavalerie est sur les arbalétriers.
Sur le gauche, on est propre. Voilà, bon, c'est bien.
Mais tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup avec Age of Empires 4, c'est il y a un côté vraiment cinéma quoi. Quand t'as des batailles, c'est vraiment. Ça bouge dans tous les sens, c'est très fluide, c'est bien animé. Et les musiques changent pour chaque civilisation.
C'est
si tu joues des civilisations plus orientales.
T'as gagné là?
Voilà. Facile, quoi.
Pour l'histoire, AlphaCast restera celui qui a, n'a jamais perdu au loup.
Vas-y, du coup, si.
Non, j'ai oublié, t'as perdu non, je crois pas.
J'ai du mal.
Montage,
ouais, on comprend au montage. Ça marche. Ouais, c'est une vidéo YouTube, là.
Voilà, pour YouTube, on coupera la partie d'avant. Jamais plus. AlphaCast. Ne reculerions au son des. N'a jamais perdu au loup.
Bien sûr.
Et donc, en fait, c'est là. C'est pas tout à fait même scénario
non.
Que.
Non, ils l'ont fait différemment.
Age of Empires 2, où il fallait les attirer dans la vallée, tu te rappelles ouais. Là, on est plutôt sur une
là,
bataille.
Là, on a vraiment le sentiment en fait. D'être en guérilla où on est ouais. Sur des renforts très, très, très. On est sur le fil.
Ouais.
Tout le long, on est sur le fil. On essaye de tenir jusqu'à s'en sortir. Et pour ceux qui sont curieux pour la suite. Ah bah, attends. Ah, j'ai plus le son du jeu.
Encore et encore. Nous repoussions chaque nouvel assaut avec force et vigueur, nos esprits enhardis et nos flèches guidées par la main de Dieu. Mais le sultan Kalaun était tourmenté. Les Mongols pourraient se joindre aux Francs et envahir les terres de l'islam depuis l'est et l'ouest. Plus grave encore, les Francs possédaient le port d'Acre. Une porte ouverte à toute nouvelle armée d'infidèles. L'heure était venue de fermer toutes ces portes. De débarrasser Bilad el-Sham de toutes les forteresses des infidèles.
Et voilà, et donc ça c'est la suite.
Le siège d'Acre. Siège d'Acre. Dingue ça.
Qui est une autre grosse bataille en effet et voilà si on veut continuer
c'est le
et
jeu
nous allons nous
c'est,
en...
c'est le jeu qui aspire tes nuits quoi
ah ouais.
Je te propose qu'on
de... il rentre dans ce club très privilégié des jeux qui aspirent mon âme oui ah,
c'est... ça, on, peut le on dire. Va retrouver Karine Juvin commissaire oui. De l'exposition merci. Karine qui nous a fait découvrir une partie de l'exposition tout à l'heure voilà pour voir toute l'exposition il faudra venir ici vous avez jusqu'au 28 juillet et on va demander à Karine Juvin qui n'est pas une gameuse. Pas encore, parce qu'elle a pensé.
On a pensé.
On sait de tout ça. Normalement, nos micros sont.
Est-ce que Karine est avec nous ? Rebonsoir, Karine.
Vous vous souvenez ?
Rebonsoir, je me souviens.
C'est à quoi prendre ? Karine, alors, Karine, merci encore de nous avoir fait découvrir l'exposition tout à l'heure. Vous nous l'aviez confié, vous n'êtes pas une gameuse, voilà, ou si, à une époque, peut-être, il y a eu un petit peu...
j'avoue, ou alors, voilà.
De façon lointaine.
De façon très lointaine.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu, là ?
Ben écoutez, ça avait l'air très vivant et très... et très, comment dire, véridique dans le sens du, voilà, du vécu et du, de la reconstitution.
Il y a beaucoup de nos viewers, parce que sur Twitch, on utilise beaucoup d'anglicisme, c'est une plateforme américaine, de nos viewers qui sont avec nous ce soir et qui nous regardent et vivent le moment avec nous, qui ont beaucoup apprécié l'exposition, qui nous disaient que pour certains, ça avait été une porte d'entrée dans l'histoire. Ouais. Certains sont devenus profs d'histoire par ce jeu. Voilà.
C'est fascinant, c'est enthousiasmant. Et c'est vrai que c'est une autre manière d'approcher l'histoire, effectivement, qui est moins peut-être rébarbative pour certains, ou en tout cas plus, assurément plus ludique, plus vivante, et voilà, qui mêle un petit peu l'histoire pure et puis l'histoire presque vécue, en fait, aussi, parce qu'il y a une manière de vivre l'histoire.
Des,
en fait.
Sans doute des choses qui ne sont pas très fidèles. Vous avez dû voir des choses qui vous ont peut-être...
Alors, j'ai vu quelque chose, en tout cas dans la version 2 ouais. Que j'avais pu visionner, qui effectivement était un peu plus fantaisiste. C'est vrai que la première fois que j'ai vu ce contingent mamelouk monter sur des chameaux de Bactriane d'Asie centrale, je me suis dit, oula.
Ça non, ça n'est pas possible ça.
J'étais un peu surprise, oui, parce qu'effectivement, on était très, très loin de là, pour le coup, de la vérité historique. Après, ils avaient leur côté, comment on pourrait dire, amusant et voilà. c'est presque cinématographique dans cette, mais c'était vrai, un drôle de mélange pour moi.
Et puis lance leur sabre aussi.
voilà, une manière de manier le cimetière un peu étonnante.
Je l'avais expliqué tout à l'heure, il y a des ouvrages sur l'art de la guerre qui ont pu être conservés.
Oui,
et donc,
oui.
En fait, on sait assez précisément comment ces combattants mamelouks combattaient, parce que c'est documenté.
Oui, il y a effectivement tous ces traités de sur l'art de la guerre, de s'entraîner à différentes techniques d'armes, différentes techniques de combat. Donc effectivement, et en plus certains manuscrits sont illustrés, donc même s'ils sont pas extrêmement forcément un petit peu arrangés eux aussi finalement, quand même on a une idée précise des armes. On en conserve aussi des armes. C'est pas que des représentations. On a des armes d'époque mamelouk qui sont conservées. De différents types, des armures. Donc on a quand même on a des découvertes archéologiques aussi, notamment il y a eu des fouilles françaises à la citadelle de Damas il y a quelques années qui ont mis au jour un matériel militaire qui était assez étonnant parce que, alors là c'était pas des armes en métal, c'était même des armes plus, je dirais de plus usuelles on pourrait dire, qui n'étaient pas du tout des armes de parade ou en tout cas avec des casques en cuir et puis des flèches, des petites choses comme ça qui nous rendent cet art de la guerre mamelouk accessible.
C'était une civilisation qui était plus... parce que, bon, on parle souvent des Mongols avec les Mangoudaï, les cavaliers. Les Mamelouk, on était plus sur des stratégies plus... classique, plus dans la cavalerie, ou comment alors, ça se passait?
Assurément des cavaliers, des cavaliers archers, donc effectivement, il y avait la cavalerie, alors pas que archers, mais traditionnellement, les populations turques, en tout cas, sont très réputées pour ça, et c'était de très bons archers. Les manuscrits, justement, illustrés, le montrent bien, il y a beaucoup de techniques d'entraînement au maniement de l'arc. Donc oui, ça jouait beaucoup sur la rapidité de l'attaque, attaque-retrait aussi. Il y avait beaucoup de feintes finalement.
C'était très bien fait.
On le voyait avec le 4 a voulu rattacher plus.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment les techniques, je dirais, de base presque de l'attaque mamelouk en fait.
C'est intéressant que du coup le 4 semble plus fidèle.
Bien sûr. Oui.
Et du coup, le fait d'être des cavaliers qui devaient être très mobiles, à l'aise pour manier justement, pour tirer à l'arc, etc., faisait qu'ils avaient un armement, en tout cas des armures plus légères, des protections plus légères, comme on en voit dans l'exposition. D'ailleurs, on a une très belle armure qui peut être une armure de parade, mais qui était aussi effective au nom d'un sultan et qui allie la cotte de maille avec des petites plaques pour protéger le thorax. Donc, quelque chose de plus léger, de plus souple que les armures des chevaliers en Occident. Oui.
Est-ce que le bouclier est très présent ou pas? Parce que
oui, on n'en conserve pas beaucoup, exemple, mais on en voit sur les miniatures et on en conserve un ou deux qu'on n'a pas dans l'exposition. Mais oui, on avait des boucliers qui étaient plutôt des boucliers ronds, de plutôt petites dimensions.
Et j'ai cru voir à la fin de ta game des soldats avec de la poudre.
Oui.
Quel type d'arme?
C'était les traits de feu. Enfin, on est sur les premières.
Ça, c'est pas anachronique.
Alors
non, pas du tout. Alors on avait déjà des petits canons, des mini canons.
C'est ça, c'est des bâtons avec un canon au bout.
Qui apparaissent au cours de la période mamelouk. Et on a une artillerie qui se développe un peu à la fin de la période mamelouk, qui est un peu à la traîne par rapport aux armées ottomanes, justement. Et c'est aussi là une des raisons de leur échec face aux Ottomans. Mais il y a quand même le développement, les débuts d'une artillerie à la période mamelouk. D'ailleurs, j'aurais voulu avoir un canon mamelouk dans l'exposition qui se trouve en Jordanie aujourd'hui, mais malheureusement, on n'a pas pu le montrer.
Ça n'a pas été possible.
Alors justement, vous parlez des Ottomans et quand vous nous expliquiez vis-à-vis des mamelouks et donc avec le côté dans l'enfance, voilà, on les prend de leur famille, etc. Au final, les janissaires ottomans, on est sur un système qui a quelques points communs.
Oui, c'est un système qui n'est pas très éloigné, si ce n'est que, disons, il y a un côté un peu plus systématique peut-être dans la manière je vais pas dire de recruter, mais en tout cas de constituer ces janissaires, puisque c'était vraiment une sorte de prélèvement parmi les populations, les enfants des populations chrétiennes, puisqu'on ne pouvait pas le faire avec des musulmans qui ne pouvaient pas. Donc voilà, il y avait un côté un petit peu systématique justement d'enrôlement de ces jeunes enfants des communautés chrétiennes pour former des soldats janissaires. Mais c'est un petit peu le même système, effectivement.
Et dans le chat, il y a une question que je me posais, qui est revenue plusieurs fois pendant le stream et que je me pose depuis le début, c'est si j'ai bien suivi, les anciens esclaves sont devenus maîtres de la région, employés d'abord pour assurer la sécurité du pouvoir de l'époque qui était abbasside, si je ne me trompe pas.
Alors, juste avant, dans cette région-là spécifiquement, c'était les Ayyoubides. C'était la dynastie fondée par Saladin.
Et comment prennent-ils le pouvoir? Est-ce qu'ils renversent le pouvoir de leur maître? Comment se passe la transition entre d'utiliser pour la sécurité à maître de la région?
Alors, c'était des contingents militaires, en fait. Donc, c'était vraiment les soldats d'élite aussi, justement, des cavaliers au service de ces sultans Ayyoubides, donc qui contrôlaient l'Égypte et la Syrie. Et à un moment de troubles politiques, de troubles sécuritaires, on pourrait dire, de l'État ayoubide, avec l'arrivée des croisés menés par Saint-Louis qui débarquent à Damiette en 1249, à ce moment-là, le sultan ayoubide décède aussi à un moment donné, et donc les troupes mamelouks, finalement, qui sauvent un peu la mise et battent les croisés, prennent le pouvoir, finalement. Voilà, ça s'est fait un petit peu dans un mouvement spontané, quelque part, dans un moment de vacances du pouvoir, finalement. Et puis, finalement, ils se sont retrouvés là et ils se sont installés avec la légitimité, justement, de cette puissance militaire, de cette capacité à maintenir l'État, finalement, en tout cas, et à protéger ces territoires musulmans contre les croisés.
Et c'est
contre
là,
les Mongols ensuite.
C'est là qu'on voit aussi à quel point on est bien sur le thème avec Age of Empires 4. C'est ça qui fait que ça fonctionne, notamment quand on découvre l'histoire. C'est que là, on parle des Ayyubides, on parle de la dynastie des Abbasides. Dans Age of Empires 4, ce sont des civilisations qu'on peut jouer. Donc on a la dynastie des Abbasides, et la mécanique principale tourne autour de la maison de la sagesse, qui est vraiment le bâtiment
principal.
Alors
ça, oui, c'est un peu antérieur. C'est vraiment
plus
antérieur, voilà, à Bagdad.
On retrouve les noms.
Mais les Abbassides perdurent jusqu'à l'arrivée des Mongols, justement, qui prennent Bagdad en 1258. Mais ils existaient déjà depuis le 750. Donc c'est... On règne des Abbassides.
Démonstration que le jeu vidéo peut être une porte d'histoire, d'entrée dans l'histoire. Là, récemment, j'ai découvert une autre franchise qui est Call of Duty, voilà, qui nous parle notamment de la Seconde Guerre mondiale. Pas de la première, je crois.
Ça a commencé avec la Seconde
Guerre mondiale. Et là aussi, quand j'ai streamé ce contenu, donc ce jeu qui nous parle de guerre, et notamment de la Seconde Guerre mondiale, j'ai eu des anciens lycéens qui m'ont dit « Moi, je suis rentré, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire et à mes cours d'histoire quand j'ai joué à ce jeu. »
C'est formidable, c'est une belle porte d'entrée.
Là, c'est sûr, avec Age of Empires, vous avez une belle porte d'entrée pour l'exposition ici. Ça, c'est sûr, vous allez voir les références. Vous aurez la ref.
Vous avez jusqu'au 28 juillet. Et après, ce sera à Abu Dhabi. Donc, c'est un peu plus...
Un peu plus loin, mais c'est une autre expérience.
on vous a promis une dernière petite surprise ce soir, puisqu'on a eu une séquence où on s'est promené dans l'exposition, une séquence où on a reçu Frédéric, qui est un des développeurs du jeu, de la franchise, qui nous a expliqué un petit peu toutes les cartes. Une séquence de jeu où, je rappelle, AlphaCast a enchaîné les victoires. C'est victoire sur victoire sur victoire. Et on va faire par un petit dîner. Avec un plat qui nous a été préparé par un chef étoilé qui est Vivien Durand et qui nous a, alors pas préparé un plat de l'époque, mais un plat, on va dire, inspiré peut-être, il va l'expliquer mieux que moi, de la gastronomie et des aliments de l'époque. Donc on va voir la surprise. Je vous propose qu'on aille le voir ensemble.
Bien sûr.
Vous en pensez quoi? On fait ça? On a un petit chemin à faire ensemble. Voilà. C'est parti.
Allons-y.
Et le chat, évidemment, on vous en met de côté pour vous. On n'emmène pas le mug.
Non, je pense que c'est bon.
Chacun garde son micro. Voilà. Et là, l'incroyable prod nous suit. Voilà. Ce qui nous permet de nous promener encore un petit peu. C'est tellement un plaisir enfin, impossible à, auquel s'habituer de visiter le Louvre dans ces conditions, quoi. Parce que c'est bien qu'il y ait, c'est le musée le plus visité au monde, hein. Donc, oui. Mais malgré tout, quand on est au milieu de centaines et de milliers de personnes, bon, c'est pas la même chose.
C'est pas la même expérience, c'est sûr.
Vous avez pu visiter tout le Louvre dans son entièreté.
Que j'ai visité tout le Louvre, oui, j'espère.
Karine, vous y êtes.
Mais on le fait toujours par petits bouts, en fait, le Louvre, parce que c'est tellement immense. Alors moi, ça commence à faire un certain temps. Je vais peut-être pas le dire, ça va me, ça va me desservir, mais ça fait longtemps.
Bonsoir. Comment ça va?
Très bien.
Bon, alors, et nous, on multiplie les premières ce soir, puisque on a joué aux jeux vidéo pour la première fois au Louvre. Je sais pas si vous êtes gamer. Vous-même?
Je l'ai été. J'ai un peu moins le temps maintenant.
Sur un jeu en particulier ou...
Moi, je jouais beaucoup à tout ce qui est Final Fantasy, Zelda, tous ces trucs-là.
Ok, bah ça va parler au chat. Voilà. Et donc là, grâce à vous, on a la chance, en plus de dîner au Louvre. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de dîner déjà au Louvre, mais sûrement.
Alors, nous, on a la chance de faire une fête du personnel.
C'est une fête annuelle?
Tous les ans, sous la pyramide. Oui,
oh, voilà. C'est super. Ça, c'est avec un buffet?
Avec un buffet, avec de la musique.
Et Vivien, vous avez déjà eu l'occasion de faire quelque chose pour le Louvre ou pas?
Moi, j'ai ouvert mon restaurant Louvre aujourd'hui.
Oh!
Voilà.
Mais c'est-à-dire.
On a ouvert le café pyramide.
C'est au niveau du carrousel ou pas du tout?
C'est juste là, à 50 mètres.
Aujourd'hui,
ouais.
Le café pyramide.
Premier service.
Et qu'est-ce qu'on propose?
On fait une cuisine française de terroir français.
Ok.
Qu'on réinvente avec énormément, comme ce plat qu'il y a là aussi.
D'accord.
D'inspiration avec tout l'art du Louvre qu'il y a maintenant.
Donc, déjeuner.
Déjeuner.
Et puis c'est tout,
ouais.
Parce que l'heure de fermeture du Louvre fait qu'on ne peut pas dîner.
On ouvre de 9h30 à 16h.
D'accord, très bien. Et chef étoilé, Vivien.
Oui.
Donc là, ce n'est pas votre premier restaurant.
Non.
Votre restaurant principal, il n'est pas dans le sud-ouest?
Il est à Lormont, au pied du pont d'Aquitaine, à côté de Bordeaux.
C'est ça, voilà, exactement. Ouais. Et c'est là où vous êtes étoilé.
Ça s'appelle le Prince Noir.
D'accord. Voilà. Et cuisine
Cuisine, pareil. Nous, moi, je suis très, très attaché... au local, à nos producteurs, à une cuisine lisible.
Okay.
Et du coup, on s'est attaché ici aussi à faire la même chose.
Je regarde le chat parce que je suis sûr que cette idée de dîner au Louvre doit bien leur plaire. Qu'est-ce que vous nous avez préparé?
Alors, c'est une réinterprétation d'un de mes plats signature.
Okay.
Donc, c'est un pois chiche. Mmh. Parce que je trouve qu'avec l'exposition Mamelouk, c'est vraiment la légumineuse un peu reine. Mais on a fait énormément de... Moi, j'aime bien les choses qui sont très travaillées, mais assez discrètes. Mmh. Du coup, il y a trois cuissons sur ce pois chiche-là.
OK.
Et on l'a accompagné
trois
de...
Trois cuissons.
Ouais. On le cuit, après on le frit, et après on le recuit dans son jus de cuisson.
D'accord.
Les sauces qui accompagnent ce plat sont faites avec le jus de cuisson du pois chiche.
D'accord.
Donc, c'est un plat, en plus d'être... c'est un plat complètement vegan.
Ouais.
Et on a énormément de touches gingembre, citron confit au sel, carottes, oignons, raselle à nout, huile de persil. Et en fait, ce que j'ai voulu retranscrire dans ce plat, c'est le côté... Là, c'est très naturel parce que les alvéoles du pain sont faits avec un levain, donc c'est très, très naturel. Mais c'est aussi si rusé que tout ce qu'on peut voir à l'exposition en ce moment.
Je vois, c'est beau. Je vois, ça a l'air dingue. Je vois plus 10 000 euros pour le chef. Voilà. Alpha qui est là m'a expliqué qu'il était venu faire ce stream uniquement pour ce moment. Oui. Principalement pour ce moment. Vous nous gâtez. Alors, ce que vous n'avez pas vous chez vous là, c'est le parfum, parce que là on a le parfum. Hein.
Ah oui, ça. Hein
ah, c'est magnifique.
Voilà. Et bon. Ce qui est important, c'est que souvent les légumineuses c'est un peu maltraité parce que c'est un peu lourdingue. Mmh. Et en fait, le fait de la rôtir à nouveau une fois cuite, on donne beaucoup de côté toasté, rôti et beaucoup plus de souplesse à la légumineuse. Ah, oui. Et donc c'est très moelleux, mais en même temps assez dense et presque animal comme texture en bouche.
Alors j'aime bien répondre moi au chat aussi quand il me taquine. Je vois un Lumpy qui dit il invente les coms, Samuel. Non, c'est juste que je lis plus vite que toi. Voilà, c'est mon super pouvoir. Je sais faire un seul truc très bien, c'est que je lis très très vite. Mais tu peux pas tout faire. Merci Lumpy pour ton message. Qu'est-ce que
Allez-y, voilà. C'est fait pour ça.
Voilà. On y va. Et c'est un plat que vous avez déjà fait?
C'est un plat qu'on a mis au point au Prince Noir depuis quelques années. Okay. Et on fait une touche très très sud-ouest. Du coup, normalement, on fait un chabrot. Donc, on sert un alcool comme la soupe. Chabrot, c'est quand on met la soupe à la fin pour finir la soupe, on servait le vin qu'on mettait en accord sur ce plat, on servait une goutte dans le pois chiche. Et les tanins des vins de Bordeaux, plus un peu l'alcool qui ressortait à la chaleur, accentuait un peu, exhaustait un peu tous les goûts. Il faut y aller à la cuillère.
Comment vous avez fait pour garder le plat? Parce que le plat est chaud, là, vous l'avez cuisiné.
On est à peut-être 30 mètres.
Incroyable. Bon, là, sur Twitch, on partage plein de choses, mais là, on ne peut pas. Attendez, je vais essayer de partager avec vous, mais là, voilà. Et franchement, là, c'est divin.
C'est
vraiment
excellent. Et donc, qu'est-ce que c'est sur le dessus?
C'est du jus de pois chiche émulsionné, comme une mayonnaise. D'accord. Voilà. Avec, pour l'une, la verte, c'est une huile de persil, et l'autre, c'est du rasin d'Anout.
Vous avez des riverains là. Le château du Prince Noir est juste à côté de moi, je connais bien. Mmh. Voilà, tellement envie de goûter, désolé. Voilà, je pense qu'on fait un peu des envieux là. Bon, bah alors félicitations pour ce projet qui commence là. Alors,
ouais, je suis ravi. Ouais. Je suis ravi. On va pas. Le lieu est incroyable. C'est très inspirant. Et puis on a passé un super moment et les équipes sont trop cool. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très enjoué. J'aime vraiment mon métier. C'est la restauration, c'est faire plaisir aux gens. Et j'ai passé des moments. Ça commence très, très bien.
Et là, en plus, vous allez rencontrer des gens du monde entier, là.
Ouais. C'est ça qui a été le plus dur. Parce que si vous voulez, Christophe, qui gère vraiment toutes les recettes et toutes les cuisines pour le Louvre, quand j'ai fait une première carte, moi, j'ai fait une carte de mon restaurant pour fidéliser les gens, les faire venir et tout ça. Et en fait, l'essentiel du Louvre, c'est que les gens ils viennent visiter le Louvre. Nous, il faut qu'on arrive à leur proposer quelque chose au plus grand nombre qui soit le plus attractif pour eux possible. Et du coup, la gymnastique est complètement différente.
Bah, c'est une belle aventure, c'est un beau projet. Ouais, qui vous éloigne un petit peu de votre sud-ouest, mais...
Bon. 2h15.
Ben, un grand ça merci. Va.
Avec grand plaisir.
Je peux vous assurer que c'est délicieux. Une note sur 10
Très parfumée.
Une note sur 10 Moi, je mets 12. Oh, pardon, je te prends un mauvais moment, là. Oui, là, il est André. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas mangé, nous tous, ce soir. On n'a pas dîné. On était tous très pris par ce joli stream.
On a jeûné.
On a jeûné, donc on se fait vraiment plaisir. Vivien, venez avec nous, Vivien. On va vous saluer. On va vous dire au revoir. Oui. Encore une fois, je vais remercier tout le monde. Je vais remercier toutes les équipes du Louvre. D'abord, de nous avoir accompagnés sur ce beau projet, de nous avoir proposé tous ces intervenants, de nous avoir proposé l'idée. Parce que je rappelle que c'est le Louvre qui nous a proposé l'idée. C'est un mail qui est venu dans notre boîte. Il y a quelques semaines.
Puis tu m'as à la Zilane. Et oui. Je passe, je lui dis bonjour. Et puis, il m'attrape le bras. Hey, au fait,
j'ai un truc à te montrer. Ouais, on était ensemble. Sébastien, j'ai une proposition. Là, il faut que je te parle de quelque chose parce que je pense que ça pourrait te plaire. Donc, un grand merci aux équipes du Louvre. Notamment à Valentine, à Nazim. Alors, je remercie aussi les équipes de production qui étaient avec nous autour de Joe, parce que je citais Joe, c'est mon partenaire de tous les jours. Et je salue aussi dans l'équipe de production, de tournage, au son, à la lumière, Valentine, Nazim, Jules, Stéphane. Les équipes du Louvre, je les cite aussi, Ravit, Apolline, Manon, Marc-Antoine, qui nous ont accompagnés. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup d'attention, il y a eu beaucoup d'exigences de chaque côté, mais dans une très bonne ambiance. Voilà, c'est toujours agréable de travailler avec des équipes aussi professionnelles qu'humaines. Ça a été aussi agréable de préparer ce stream que de le vivre. Quoique de le vivre, c'était vraiment très fort. C'est-à-dire que se dire on va jouer aux jeux vidéo au Louvre et on va avoir une belle exposition ensemble et on va parler d'histoire et de nos passions respectives.
C'est le final.
Et on finit. Mais c'est pas tout à fait fini parce que nous on va couper le stream. Voilà. Joe, si tu veux faire un raid, tu veux choisir un raid, Joe, si t'as la main, n'hésite pas. Voilà. Mais nous on va finir ce très très bon plat parce que c'est vraiment un délice. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez aussi. On se retrouve en stream très vite, peut-être ce soir en rentrant, peut-être demain, peut-être sur Edge of Empire. Prochain stream, Alpha, c'est quelque chose de prévu ?
Prochain stream, moi, ce sera mardi sur Dune. Voilà.
Ah, je sais que tu es très accro.
Et Age of Empires, on reviendra. On a une LAN le 28. On fait une LAN à Montpellier le 28. Voilà. Ah ouais. Pour les amateurs de Age of Empires 2, 4 et mythologie. Un peu de mythologie, voilà. Il n'y a pas que de l'histoire. Mais on organise un événement. Donc, si vous êtes curieux, hangar.gg. On fait un petit événement sympa.
Et merci à tous pour tous vos messages que je lis là. Beaucoup de remerciements au Louvre et à son équipe pour l'organisation de cet événement. À très très vite. Joe, je te laisse gérer un raid si tu veux le faire. Peut-être à quelqu'un qui joue à Age of Empires par exemple. Et on se retrouve très vite sur Twitch. À bientôt.
Bye.
Au revoir.